lights out. I don't know where we go.
Et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1. Shinji n'est pas là, mais ne vous inquiétez pas, on va quand même faire l'émission, il va bien. Donc il tente une reconversion en tant que technicien de maintenance électroménager, mais c'est pas grave, on va faire l'émission quand même. Et heureusement, je ne suis pas seul, hein, vu ce formidable début. voilà, voilà. Donc bonsoir Dino.
Bonsoir Gus Gus, bonsoir à tous.
Bonsoir Fab.
Bonsoir.
Et bonsoir Ben.
Bonsoir.
Est-ce que vous allez bien ?
Ah bah ce soir particulièrement bien, étant donné que Shinji n'est pas là, on a bon espoir de faire un début rapide vers vraiment parler des sujets intéressants comme la Formule 1.
Oui,
et pas
j'imagine.
Faire des trucs sur la date de dimanche.
Voilà. Nous y reviendrons. Comme d'habitude, première question, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Grand Prix ?
Non mais c'est le Grand Prix comme on en a souvent à Suzuka. Hein.
Grand Prix plaisant, intéressant d'un point de vue stratégique. Ce qui pour une fois c'est retranscrit sur la piste au niveau de la compétition quoi. Mais c'était quand même un grand prix, on a rapidement eu l'impression de voir un gros chat en train de jouer avec une souris avant de la battre. Donc bon, voilà quoi.
Mais c'était moi, j'avais justement l'image, c'est en faisant la réflexion ce week-end, c'était l'image des Vélociraptors dans Jurassic Park. J'avais un petit peu ça, t'as un Vélociraptor en face de toi, tu le regardes, mais tu vois pas les deux Vélociraptors qui arrivent sur ton côté. Et voilà, c'était un petit peu Romain Grosjean.
Avant d'aller plus loin dans l'émission, je pense que vous joindrez à moi pour avoir une pensée d'abord pour les proches de Maria de Villota, qui nous a quittés vendredi matin. Je pense qu'on y reviendra un peu plus loin dans l'émission. Et pour les proches de Sean Edwards également, qui était un pilote de la Porsche Super Cup et qui était même le leader de cette catégorie et qui est décédé ce matin également à 26 ans pendant qu'il donnait des cours de pilotage en Australie. Donc
Sean Edwards, qui était le fils de Guy Edwards, qui a couru en Formule 1 et notamment en 1976, et il avait d'ailleurs participé au film Rush en tant que doublure, en tout cas il jouait le rôle de son père justement en tant que doublure de pilote de course, notamment au moment de l'accident de Lauda.
Voilà, donc ça me semblait important de le signaler. Vous le savez, habituellement après les présentations et le début de l'émission, on fait un éphéméride. Mais c'est moi qui présente, j'ai pris une grosse décision. J'ai décidé de perpétuer cette tradition.
Oh merde.
Donc tout de suite, vous le savez, nous étions le 13 octobre.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite.
Que on ferme le chat, on ne regarde pas les navigateurs, vous n'écoutez plus que le son de ma voix.
Non mais attends, moi je peux pas ouvrir une page internet, sinon tout foire, donc arrête.
Eh bien c'est un garde-fou de plus. Messieurs, le nombre, puisque c'est un nombre, est le nombre 70.
Donc tu as bien compris le principe, hein, c'est pas lié à la Formule 1.
Oui, exactement.
D'accord, ok.
Je ne suis quand même pas si débile que ça, quoi.
Connard.
Voilà. Je voulais pas le dire, mais Fab m'a bien secondé.
Est-ce qu'il y a une unité derrière ?
Oui.
Unité de temps ?
Oui. Ça va trop vite.
Voilà, oui.
Des minutes ?
Non.
Des jours ?
Oui, 70 jours.
C'est le tour du monde en
70 jours.
C'est le tour du monde en 80 jours, mais à la fin, Phileas Fogg, il se rend compte qu'en fait, il y a 10 jours entre quand la Terre tourne. Il y a 10 jours de décalage.
Non.
Est-ce que c'est un événement qui, depuis son début jusqu'à sa fin, a duré 70 jours ?
On peut dire ça comme ça, oui, oui.
Donc ça va pas beaucoup nous aider.
Il est comme Shinji en fait. Ouais, on pourrait dire ça.
D'ailleurs, en parlant de Shinji, qui sur le chat nous dit que c'est le nombre de fois où j'ai rêvé de faire un éphéméride. Non, je crois que je n'ai jamais rêvé de faire un éphéméride. Je n'ai jamais osé rêver le faire. Mais c'est un honneur.
70 jours. 70 jours, la date de début ou la date de fin, c'est la date de dimanche.
La date de fin, c'est le 13 octobre. D'accord. Ça vous aidera pas grand-chose, mais bon. Donc je vous le dis.
Est-ce que c'est dans le domaine sportif ?
C'est pas sportif.
C'est la durée d'un événement qui a été organisé ?
Organisé, non.
Improvisé ?
Oui, obligatoirement, oui. Forcément.
Genre, c'est genre une manif ou un sit-in ou
Non. C'est pas organisé, donc c'est tu l'as bien dit, c'était improvisé, c'était pas prévu. Et heureusement d'ailleurs.
Est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment marqué son époque ?
Marqué, non, mais ça on en a parlé beaucoup, oui.
C'est un événement uniquement français ?
Non, c'est pas français. International, ça l'est devenu, mais au départ, c'était pas international.
Est-ce que ça a trait avec la culture ?
Non.
Ah putain, alors là, dis donc.
Oasis sur le chat nous demande si c'est 70 fois en une seule fois et je répondrai oui. C'est 70 jours en une seule fois, oui, 70 jours d'affilée. Du 5 août au 13 octobre.
Est-ce que c'était la même chose tous les jours ? Enfin, est-ce que c'était des trucs différents chaque jour ?
Il y a eu une évolution pendant les 70 jours, on va dire.
Est-ce que c'est politique ?
C'est pas politique, non.
C'est historique ?
Historique, non, c'est un bien grand mot, non.
Oh là 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 là, putain.
Attends, ça s'est passé en Europe ?
Non.
Ça s'est passé en Amérique du Nord ?
Non.
En Asie ?
Non plus.
En Afrique ?
Non, il en reste plus beaucoup. Hein.
En Amérique du Sud ?
Voilà, en Amérique du Sud.
C'est la durée de construction de quelque chose ?
On pourrait le dire, mais ça va. C'est si Shinji était là, il vous dirait on peut le dire, mais bon, moi je suis plus gentil.
Est-ce qu'on a encore des traces aujourd'hui, par exemple, des traces matérielles
Ah oui, on c'est même dans les mémoires sûrement encore.
C'est c'est pas la durée que sont restés les mineurs chiliens.
Oh putain, bravo Fab.
Bravo Fab.
Eh oui, les mineurs chiliens qui sont restés donc 70 jours sous terre à peu près, hein. Il y avait soit entre 69 et 70, je me suis dit quand même, on va mettre 70.
Les chroniqueurs belges ont un peu dans cette position-là parce que ça fait déjà 4 minutes qu'ils sont en captivité, enfermés dans leur grotte.
Ils sont retenus en otage.
C'est ça. Mais bon, je vous réserve pour la suite.
Non mais Ben, il n'y avait pas un ta gueule à la clé, ils s'en foutaient.
C'est vrai.
Ils jouent que quand il y a un ta gueule.
Voilà. Moi, peut-être enfermé dans une grotte, mais nous, on est sûr d'aller à la Coupe du Monde, tu vois.
Oh là 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 là.
Ah, c'est bon.
Ça. Donc oui, les fameux mineurs chiliens et les fameuses 33 personnes qui ont été prisonnières d'une mine d'or et de cuivre au Chili, c'est la mine de San José, qui est située dans le désert d'Atacama. Il faut savoir que le Chili, c'est un des leaders mondiaux, le leader mondial même de l'extraction de cuivre. Il représente 36% du marché. Et l'extraction minière, quel que soit le minerai, elle représente plus de 15% du PIB au Chili. Donc c'est vraiment un secteur porteur de l'économie chilienne. Faut savoir aussi qu'au Chili, il y a de gros problèmes de sécurité avec les mines, notamment pour des raisons de budget, parce que dans la région de l'Atacama, sur les 884 mines répertoriées, il y a que trois inspecteurs. C'est un peu light, on va dire. Il faut savoir aussi que la société qui exploite la mine de San José, elle avait été mise 42 fois à l'amende dans les six ans qui ont précédé la catastrophe. Et dans les six mois qui ont précédé l'accident, il y a quand même eu beaucoup de séismes, puisqu'il y a eu un séisme six mois auparavant, un tremblement de terre de 8,8. Donc c'est pas rien, c'est un des plus gros tremblements de terre du siècle, hein, avec un tsunami, donc qui avait déjà mis à mal les secours chiliens, et en plus, évidemment, ça a pu participer à la fragilisation de la mine, quoi. Donc effectivement, le 5 août 2010 à 14h, il y a eu des éboulements dans cette mine qui ont pris au piège 33 travailleurs. Alors, ils n'étaient pas tous mineurs, parce qu'il y avait aussi des mécaniciens pour intervenir sur les véhicules qu'ils utilisent pour accéder à la mine. Il faut savoir aussi que c'est pas une mine très très moderne, parce qu'elle avait plus de 100 ans d'âge et qu'il n'y avait pas d'ascenseur, donc il fallait accéder au plus de 7 ou 8 kilomètres de tunnel donc en véhicule. Donc il y avait deux groupes de travailleurs dans la mine à ce moment-là, et donc le groupe qui était le plus en surface a pu s'échapper tranquillement, tandis que le groupe de 33 qui était au fond de la mine, évidemment, est resté piégé. Il faut savoir que l'éboulement a provoqué un nuage de poussière qui a fait que les 33 ont eu des problèmes avec de vision dès le départ, c'est-à-dire qu'ils étaient aveuglés par la poussière, et problèmes de brûlure et d'irritation qui sont restés durables sur leurs yeux. En surface, on s'est organisé assez rapidement pour essayer de retrouver des survivants, donc on a essayé de descendre dans la mine, mais c'était trop bloqué et trop dangereux d'essayer de creuser un peu plus pour provoquer un éboulement supplémentaire. Il faut savoir qu'il y a eu un autre éboulement deux jours après, donc ce qui fait que ça a fait donner un autre coup de froid aux recherches. Donc on a essayé de chercher d'autres moyens. On a cherché à passer par des conduits d'aération, mais ça s'est pas révélé fructueux. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a essayé de faire des forages pour atteindre les lieux présumés de où se situaient les 33, qui finalement a abouti 17 jours après. Donc 17 jours après l'accident, quand ils ont remonté le dispositif pour forer, et ben ils ont retrouvé des messages écrits. Alors estamos bien en el refugio los 33. Donc nous allons bien dans le refuge les 33. Donc à partir de là, on a organisé un petit peu un camp retranché, le camp de l'espoir, qui du coup a découvert l'existence que les 33 étaient toujours en vie. Ils ont même découvert qu'il y avait une espèce de mini-démocratie qui s'était mise en place dans la grotte. Donc toute décision était votée à la majorité absolue, ce qui fait qu'ils se sont organisés. Il y avait des leaders, les travailleurs les plus expérimentés commandés. Ils faisaient des suggestions, c'était eux qui menaient le groupe, mais toute décision était quand même soumise à un vote à la majorité absolue. Il n'y a pas de privilège.
C'est quoi les décisions qu'ils prenaient?
On mange qui?
Pedro. Bah Pedro, écoute, hein, t'es le maillon faible, hein, tout le monde a voté pour toi.
Mais
faut dire aussi que t'es le plus gros.
À partir d'un moment où ils ont été découverts, il a fallu organiser. Ils ont dû travailler aussi eux-mêmes à leur secours, donc déblayer de la roche, etc. Ils ont découvert à la surface qu'ils étaient reclus dans. Ils avaient une pièce principale, grosso modo, de 50 mètres carrés pour 33, donc c'est pas large. Il y avait de quoi s'asseoir, mais bon, c'est pas non plus. C'est pas le 5 étoiles, quoi. Le problème, c'est que cet endroit-là était mal ventilé, donc ils ont été obligés de se retrancher dans les 2 km de tunnel qu'ils avaient à porter. Donc ça leur laissait un peu d'espace quand même pour avoir un peu d'intimité, et même pour pouvoir faire l'exercice une fois qu'ils ont eu du contact avec la civilisation, entre guillemets, quoi. Malgré ça, ils ont quand même juré de pas sortir certains détails de ce qui s'est passé et de garder ça entre eux, quoi. Donc il y a eu d'autres forages pour creuser des trous et leur passer des vivres, des divertissements et des moyens de communication, ce qui était extrêmement médiatisé puisqu'on pouvait voir quasiment au jour le jour comment se passait la vie, une sorte de loft un peu forcé, quoi.
C'est vrai, en plus c'était cool.
Il y a un concept d'émission.
Oui, bah oui.
Les ch'tis à San Rossé, tu vois. T'enfermes des ch'tis dans une mine. En plus, ça correspond, les ch'tis,
oui.
C'est les mines.
Il y a quelque chose de logique.
Voilà. Donc pour aller évacuer, on a mis un peu trois forages en compétition, c'est-à-dire qu'on a creusé trois trous et le premier arrivé, effectivement, était celui qui allait servir à évacuer les mineurs. Donc le plan A, le plan B et le plan C, hein, on se croirait un peu dans les radios de McLaren. Et c'est le plan B qui l'a emporté.
Ferrari.
Non, Ferrari, il y a que le plan A.
C'est Ferrari.
Il y a le plan A et le plan M, mais le plan M il sert jamais.
Ferrari, ils ont pas de plan. Arrête de dire. Et donc c'est le plan B qui a atteint le premier la cavité où ils étaient. Et donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour permettre au forage de se faire. À un moment, comme quand on fore, ben il y a de la roche qui s'en va. Et la roche est tombée dans le tunnel. Du coup, ils devaient se relayer 24 heures sur 24 pour dégager les passages, quoi.
Les mecs, ils continuent de bosser.
Ben oui, ils étaient obligés. C'était ça où ils sortaient pas, quoi. Donc du coup, le perçage du tunnel qui allait les ramener a duré 34 jours, donc du 5 septembre au 9 octobre. Alors ils ont pas pu sortir directement les gens, donc ils ont envoyé 6 personnes dans la mine pour 6 secouristes. C'est l'opération San Lorenzo. La capsule, elle faisait 54 cm de diamètre, donc c'est vraiment pas, moi personnellement, je doute que je puisse y rentrer dedans, mais bon. Bah, grosso modo, 54 cm de diamètre, c'est la largeur d'un cockpit de F1, quoi. Ouais. Donc, c'est pas...
C'est ça qui a mis fin à une brillante carrière, d'ailleurs.
Donc voilà, une fois qu'il y avait les six secouristes avaient été envoyés dans la mine, ils étaient 39, mais ils ont commencé à récupérer les mineurs un par un. C'était divisé en trois groupes. Il y avait les plus habiles qui étaient donc les plus à même de gérer les problèmes pendant les premières remontées, puisque bon, c'était un peu un saut dans l'inconnu. Ensuite, ils ont envoyé les plus fragiles, donc les plus âgés, les plus ceux qui avaient le plus besoin d'aide médicale ou qui étaient les plus touchés psychologiquement. Et enfin, ils ont fini par les plus forts, qui étaient les mieux capables de supporter l'attente de leur remontée. Parce que l'opération a duré quasiment 30 heures en tout. Et donc, le 13 octobre, à 21h55, le dernier mineur, le leader du groupe, un petit peu, Luis Urzúa, est remonté le dernier des 33. C'était le dernier à atteindre la surface. L'opération, elle prend fin un peu plus tard parce qu'il a fallu aussi récupérer les 6 secouristes qui étaient descendus. Et voilà, après 30 heures d'opération. Donc, ils ont tous été évacués à l'hôpital. Il y a 31 sur les 33 ont été laissés libres dans les deux jours. Donc, il n'y a pas de gros dommages. Les deux autres, ils ont été libérés dans la semaine qui a suivi. Il y en avait un qui avait des petits problèmes psychologiques, donc qui a été pris en charge. Et l'autre qui avait besoin urgent d'opération dentaire. Voilà pour cette éphéméride niveau...
C'est vraiment une belle allusion à l'avenir de Felipe Massa, en tout cas. Respect. Non.
C'était un bel éphéméride.
Ouais, mais tu dis détaillé. Ça à chaque fois, de toute façon.
Ah, mais je dis tout le temps ça.
Et du coup, en F1, pas grand-chose hein, à se mettre sous la dent le 13 octobre. Alors, deux Grands Prix du Japon. Le Grand Prix du Japon 2002. Pas difficile de savoir qui a gagné. Hein.
Barrichello.
Bah non.
T'as une chance sur deux.
Bah, Schumacher. Barrichello était deuxième à 5 dixièmes. Hein, c'est pas non plus...
Ouais, ça va.
Voilà. Et Raikkonen est troisième. Et à noter, aussi ce jour-là, les premiers points de Takuma Sato sur la Jordan. Cinquième position à Suzuka, qui est effectivement un circuit...
C'est le fameux Grand Prix.
Oui, il est devenu tremplin en IndyCar maintenant. Takuma Sato.
Alors... et faut savoir que cette cinquième place a permis à Jordan de gagner deux positions au classement, donc de gagner quelques précieux millions de dollars qui n'ont pas servi à grand chose après, hein, vu les saisons suivantes de Jordan.
Oh, ils ont quand même gagné le Brésil 2003.
Oui, tu parles. Et donc, deuxième Grand Prix du Japon, Grand Prix 96, avec une victoire pour...
96? Bah, c'est
Williams.
Oui, ça doit être. Non, oui. c'est pas Schumacher sous la pluie.
Non, c'est Damon Hill qui a gagné ce jour-là. Ah. Faut savoir que quand même le titre était en jeu, même s'il y a pas beaucoup de suspense, parce que avec la victoire à 10 points, Hill avait 9 points d'avance sur Villeneuve. Donc quand même Villeneuve a poussé Hill dès sa première saison à la dernière des 16 manches pour le titre. Et Villeneuve
l'a. Mais en dehors de ça, il a rien fait. Légitimité.
Oui, c'est vrai. Et donc il a dû abandonner à cause d'une il a perdu une roue dans le premier virage après une trentaine de tours. Donc ce qui a fait automatiquement donner le titre à Damon Hill. Voilà pour cette éphéméride. Donc on va passer un peu à l'actu du week-end et je me sens que c'est toi Fab qui a préparé cette partie de l'émission.
Tout à fait. Alors, donc, on va revenir un petit peu à travers le JT du paddock, entre guillemets, sur l'actualité récente de la discipline, sous une forme un peu abrégée, puisque, en fait, je vais vous rappeler brièvement quelques actualités, plus ou moins importantes, plus ou moins marquantes, qui ne sont pas forcément, ce n'est pas forcément complet, mais je vais vous demander à chaque fois si vous lisez ou pas, et d'expliquer pourquoi vous lisez ou vous ne lisez pas. Alors, évidemment, le but, c'est de pas trop développé, mais si vous voulez faire, il n'y a pas de problème. Donc avant de commencer, je lis pas pour m'en parler, bien sûr, Marc l'a évoqué tout à l'heure, le décès de Maria de Villota, donc, que nous avons appris vendredi matin. Elle est donc décédée à Séville dans la nuit de jeudi à vendredi. Une nuit de silence a été observée par le paddock. Durant le week-end de Suzuka. Elle a bien sûr été pilote Marussia et c'est justement lors d'un test en ligne droite à Duxford qu'elle avait été victime d'un accident qui lui avait fait perdre un œil. Et alors sur les causes de son décès, très peu d'informations finalement, ou alors assez contradictoires, donc pour l'instant on préfère pas s'avancer sur la question et donc nous lui rendons bien sûr hommage. Alors maintenant, l'actualité un peu plus légère, on va commencer, messieurs, par McLaren, qui a confirmé l'arrivée dans ses rangs la saison prochaine de Peter Prodromou, le chef du département aérodynamique de Red Bull. Et il faut savoir que c'est un retour pour lui, parce qu'il avait été chez McLaren déjà entre 91 et 2006. Ce qui est intéressant, c'est qu'entre 91 et 92, McLaren possédait un moteur Honda qui reviendra avec McLaren à partir de 2015. Alors, vous lisez ou vous ne lisez pas?
Moi j'ai lu, bon, faut quand même retenir que c'est pour 2015 seulement, donc on a encore du temps. Ce qui est assez intéressant, surtout dans cette affaire-là, c'est qu'on s'y prend très très tôt et que ça va quand même poser quelques problèmes chez Red Bull l'année prochaine, parce que c'est mine de rien le responsable du département aéro. Et qu'est-ce que va faire Red Bull? Est-ce qu'ils vont le laisser en charge? Avec quelle fonction? En sachant que l'année suivante il ira chez McLaren. Même question pour Renault. Enfin voilà, c'est ça pose pas mal de questions. Donc est-ce que c'est pas non plus un coup pour McLaren pour forcer Red Bull à relâcher Prodromu un peu plus tôt, faudra voir.
Bah, ils ont pas l'intention de le laisser l'envoyer chez McLaren plutôt que prévu. Hein. Ils vont l'envoyer à la pêche.
Mais sinon, chez Toro Rosso.
Non, mais sinon tu lis forcément l'info parce que c'est quand même c'est comme le bras droit de Niue chez Red Bull, que tu sens bien que Honda en 2015 ils viennent pas pour faire de la figuration, même si effectivement Prodromu machin. Il n'aura pas grande incidence sur 2015, mais tu sens que chez McLaren, on risque d'avoir quelques changements, quelques grosses arrivées. C'est pas pour rien s'il y a des rumeurs sur Alonso notamment, quoi. Même si on peut leur accorder le crédit qu'on veut. Mais...
Donc messieurs, on va continuer toujours avec McLaren et une rumeur qui envoie Ross Brawn dans le cadre de la restructuration technique de l'écurie anglaise. Rumeur qui a été écartée par l'intéressé, hein, qui reconnaît toutefois que les discussions autour de son avenir sont toujours en cours. Il faut savoir aussi que Niki Lauda et Nico Rosberg ont ouvertement souhaité voir le technicien britannique rester. Vous lisez ou vous ne lisez pas?
C'est-à-dire que ça fait tellement
longtemps. Je dirais quand ce sera officiel.
Ok, on continue. Ross Brawn, encore lui, a indiqué la semaine dernière que dans le cadre des deux séances d'essais hivernaux qui auront lieu en février 2014 à Bahreïn, les tensions politiques dans le pays n'avaient pas été un sujet majeur dans les discussions entre les écuries. Du côté de Monisha Kaltenborn, un certain fatalisme prime, celle-ci ayant déclaré que si ces essais ont le moteur comme objectif principal et qu'il s'agit d'avoir les conditions parfaites pour le tester, alors vous n'avez pas le choix. Il est à noter que la rumeur veut que ce sont les trois motoristes de la saison 2014, Renault, Ferrari et Mercedes, qui ont imposé ce choix, le tracé de Bahreïn étant le plus représentatif à cette période de l'année. Vous lisez ou vous ne lisez pas?
Je lis pas.
Moi, ouais, je lis pas non plus, en fait.
Non, moi non plus.
Vous vous en foutez.
Toutes les questions qui sont sous-jacentes, notamment la prise de pouvoir des motoristes, entre guillemets, sont intéressantes, mais sinon, voilà, de toute façon, on ira faire des essais, quoi qu'il arrive, que ce soit à Bahreïn ou ailleurs, je pense qu'ils feront des essais. Donc.
Ouais, tout ouais, en bah, sachant ça, que, le fait est que ça fait plusieurs saisons qu'ils râlent de rester en Espagne, parce que ce soit à Barcelone principalement ou à Jerez, les conditions climatiques sont pas exceptionnelles, notamment pour tester les pneus. L'an dernier, enfin cet hiver-ci, les pneus à Barcelone, ils disaient tous, on n'apprend rien sur les pneus, donc il faut avoir des conditions optimales, puisqu'il va y avoir plein de changements, donc c'était logique qu'ils aillent là où il fait un peu plus chaud. Maintenant,
oui,
Bahreïn.
Puis ça fait déjà un an qu'on en parle, on citait le nom du Qatar, on sait que le Qatar aimerait avoir des essais, donc voilà, et ça fait quand même quelques années aussi qu'ils vont à Abu Dhabi au moins une fois dans l'année pour faire des essais, donc c'est relativement logique. Enfin, ça serait logique, en tout cas.
Donc, après les moteurs, on va passer aux pneus. Paul Embery a exhorté le monde de la F1 et notamment les écuries à faire preuve de plus de coopération. Alors que les essais programmés avec McLaren à Austin n'ont finalement pas été autorisés par la FIA, à la suite des protestations de certaines écuries, ces dernières estimant que ces tests, qui auraient pourtant été réalisés avec une voiture de 2011, comme le veut le règlement, auraient permis à l'équipe de tirer un avantage en vue du Grand Prix des Amériques quelques semaines plus tard. Vous lisez ou vous ne lisez pas?
J'ai lu.
Moi j'ai bien. Mais voilà, moi j'ai lu aussi, mais de toute façon, ils pensent. Bah, McLaren reste avec l'idée de faire des essais. Ils iraient à Vallelunga, je crois. Ils aimeraient bien aller là, en tout cas. Donc, ce ne serait que partie remise. De toute façon, Red Bull a fait des essais, donc ce serait logique que d'autres écuries puissent le faire, quoi.
Oui, vraiment, ce qui bute là-dessus, c'est vraiment le fait que ça se passe avant le Grand Prix des États-Unis.
C'est vraiment le circuit en lui-même.
Ils auraient pu tirer, en tout cas, surtout que c'est un circuit où ils ont mine de rien pour m'en faire qu'un seul Grand Prix, donc il n'y a pas encore beaucoup de données. Ils auraient eu des données qui auraient été importantes et l'écurie qui aurait le plus gueulé contre cette initiative, c'est Force India, qui est la rivale directe de McLaren, même si je pense que maintenant Force India va regarder dans le rétro.
Oui, c'est ça, c'est plus vraiment le choix du circuit que la volonté de faire des tests qui posait problème. Là. Donc, j'ai lu, mais pas avec un grand intérêt. Quoi.
D'ailleurs, toujours pour rester sur Pirelli, ils ont tenu à rappeler à l'ordre un certain nombre d'équipes qui s'amusaient à jouer avec les recommandations sur la mise en température des pneus, notamment. Donc là, visiblement, il y a quand même une difficulté à se mettre, d'équerre avec les équipes. Hein, on a beau avec tout ce qui s'est passé à Silverstone et par la suite avoir déjà eu des rappel à l'ordre assez sévère, on continue de jouer avec le, on continue de jouer avec les pneus et avec le danger que ça peut représenter.
C'est vrai qu'il faut, faut rappeler qu'en fait l'astuce, c'est de chauffer les pneus à une température différente, enfin comme ils doivent avoir une pression définie, enfin être dans une fenêtre de pression définie, ils jouent sur la température des couvertures chauffantes pour qu'au moment où on contrôle les pneus, la pression soit bonne. Mais comme le pneu, quand vous allez sortir des stands, et on le voyait bien sur les caméras thermiques ce week-end, quand vous sortez des stands, le pneu se refroidit, donc du coup ça ramenait une pression qui convenait davantage aux intérêts de l'équipe, sauf que cette pression là est potentiellement en dehors des fenêtres préconisées par Pirelli. Donc je pense que là il y a là au-dessus de la part Pirelli peut-être quelque chose à proposer pour éviter que ça se fasse comme ça, retirer les couvertures chauffantes.
Mais ils ont envoyé des préposés hein, maintenant qui mesurent la température des pneus à leur sortie des couvertures chauffantes. Ouais. C'est ça leur mesure. Changeons de sujet, passons à la FIA. Vous savez qu'il va y avoir des élections. Jean Todt, sur le site internet de sa candidature à la présidence, a posté un document revenant sur son bilan en français à la tête de la Fédération internationale depuis 2009, mais traçant aussi une ligne pour l'avenir. Vous lisez ou vous ne lisez pas ?
J'ai pas lu. Hein.
Moi, j'ai pas lu, mais c'est vrai que ça serait intéressant de voir ce qu'il a fait, tiens.
Ce qu'il dit avoir fait.
Oui, ce qu'il dit avoir fait. Non, parce que c'est vrai que son bilan a pas l'air.
J'ai pas lu le. Mais vous voulez les grands thèmes, non ?
Ah oui.
Ouais, vas-y. Alors, de toute façon, ça doit pas être très long.
Non, les grands thèmes, c'est des idées fortes, hein, vraiment. Il y a une fédération pour le 21e siècle. Voilà, c'est pas mal. Ah. Il est déjà dans le sujet, hein. Une fédération pour tous. Bon, là, on sent un message porteur.
Une fédération pour tous. C'est Frigide Barbeau qui va pas être contente.
Une fédération du renouveau. Voilà, bon. Ça mange pas de pain. Une fédération de l'innovation. Ça, c'est bien en matière d'automobile. Il faut y penser. Une fédération pour agir sur la scène mondiale. Oui, c'est une fédération internationale, évidemment. Et là, j'ai trouvé que c'était quand même le plus important, parce que finalement, quand même, fédération internationale de l'automobile, eh bien, c'est une fédération pour aller de l'avant. Voilà.
Il veut supprimer les marches arrière.
Ouais, il y a plus de choses. J'exagère un peu. J'ai repris les grands titres. Ensuite, dans la conférence de presse de jeudi à Suzuka, le sujet des châssis clients a fait son retour dans l'actualité. Vous lisez ou vous ne lisez pas ?
Moi, j'ai lu, mais en diagonale. Parce que de toute façon, les châssis clients, ça va à l'encontre. C'est ce qu'un une des personnes présentes disait. C'est ça va à l'encontre, finalement, du principe de constructeur.
Après, ça dépend de la notion de constructeur. On a une notion de constructeur en Formule 1. Si vous prenez la NASCAR, il y a un championnat constructeur qui est vraiment sur les constructeurs, les trois constructeurs engagés, c'est Ford, Chevrolet et Toyota. On pourrait imaginer effectivement qu'on ait un classement qui cumule, enfin qui soit spécifique aux constructeurs et pas aux écuries, avoir un championnat pilote, un championnat écurie et un championnat constructeur. Voilà, après c'est vraiment un détail réglementaire.
Peut-être un championnat motoriste plus que constructeur, ouais, à la limite.
Mais c'est vrai que le châssis client peut être une bonne solution, c'est peut-être une solution un peu trop simple. Encourager les synergies entre ce qui existe d'ailleurs déjà, mais vraiment les renforcer et peut-être les encourager véritablement entre les écuries d'un même constructeur, ça peut être une autre hypothèse aussi. Voilà.
Non, mais c'est vrai que c'est se débarrasser un peu du problème de la réduction des coûts, quoi. Enfin, c'est la solution de facilité. C'est vrai que ça empêche d'avoir à chercher des solutions de ce côté-là.
Et globalement, les arguments des membres des équipes qui étaient présents donc à cette conférence de presse rejoignent assez ce que vous dites, et notamment le fait, c'est Jonathan Neal de McLaren qui l'a soulevé, que la F1 devrait plutôt se pencher sur la viabilité économique des modèles d'affaires déjà en place, effectivement tendre vers une réduction des coûts, toujours dans un cas, enfin en laissant la liberté de construire ses propres éléments, plutôt que d'aller sur des modèles qui changeraient en profondeur la nature du sport. En même temps, c'est toujours un argument un petit peu bizarre quand on sait que les 30 premières années, même les 40 premières années de ce sport ont surtout été aussi marquées par des équipes qui se créent sur les cendres, ou en tout cas en réutilisant les châssis de soit d'écuries toujours existantes mais de modèles précédents, soit d'écuries disparues. Donc ça reste toujours malgré tout ce qui n'est pas non plus contre nature. On passe au circuit ?
Oui. Ouais.
Alors du côté des circuits, donc le tracé d'Interlagos qui a accueilli 30 des 40 Grands Prix du Brésil a été prolongé jusqu'en 2020. Et les travaux visant à moderniser la voie des stands, qui sera désormais placée entre les virages 3 et 4, devraient débuter en 2014 pour être terminés avant l'édition 2015. Vous lisez ou vous ne lisez pas ?
Ah, je lis.
La prolongation, tu lis, oui, forcément.
Ça me barre.
Je lis, j'écris, j'apprends par cœur, je fais tout ce que tu veux.
Donc, on continue. Le circuit d'Interlagos va se refaire une beauté pendant que celui de Valence, qui, je le rappelle, était censé accueillir le Grand Prix d'Espagne en alternance avec Barcelone, tombe en ruine du fait de l'endettement de la communauté de Valence. D'ailleurs, si vous voulez voir les images, il y a un diaporama du circuit dans son état actuel qui est disponible sur le site internet espagnol. 20 minutos, 20 minutes. Donc vous lisez ou vous lisez pas ?
Je parle pas l'espagnol, donc je vais avoir du mal à lire. Non mais c'est vrai que du coup de voir le circuit en état actuel, ça peut être intéressant. Après, je pense que ce qui est le plus intéressant surtout, c'est qu'on a appris qu'il continue pas, c'est pas nouveau, mais on a appris qu'apparemment ça serait sans pénalité. Donc voilà. En tout cas, c'est ce que dit le responsable de la région valencienne.
Ouais, j'ai lu, mais ça m'a fait beaucoup moins de peine que quand j'avais vu des photos de l'ancien Hockenheim à l'abandon aussi. Alors, même si d'un côté c'était la nature qui reprenait ses droits, je trouvais dommage qu'on n'ait pas conservé quand même le tracé actuel. Valence, je m'en fous un peu personnellement.
Ouais, moi je m'en fous, donc je lis pas.
Vous avez vraiment pas de cœur.
Mais sincèrement, moi, ce circuit va quand même me manquer parce que je trouve qu'il avait de l'intérêt.
Ouais, mais c'est comme la Corée. Après, le circuit aussi a de l'intérêt, mais les courses, bon.
Bah, je trouve que Valence a plus d'intérêt que la Corée, mais.
Donc, on va terminer avec les pilotes. Donc, leur avenir. Donc, chez Lotus, Eric Bouillet a clairement avancé le fait que Nico Hülkenberg, avait sa préférence pour remplacer Kimi Raikkonen, tout en précisant que ce n'était pas encore en place pour confirmer le line-up de 2014. L'avenir semble malgré tout assez c'est sereinement envisageable pour l'équipe d'Enstone, puisque l'accord avec Quantum Motorsport, anciennement Infinity Racing, n'est plus apparemment qu'une question de jour. Vous lisez ou vous ne lisez pas ?
Hülkenberg, tu lis, voilà. Maintenant, Quantum, ça fait des mois qu'ils nous disent que c'est presque. Donc, on lira quand ils annonceront que c'est officiel. Enfin, moi, je dirai quand ils annonceront que ce sera officiel. Quant à Hülkenberg, on a quand même apparemment beaucoup parlé de lui chez Force India ce week-end aussi.
Mais ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est la réaction de Lotus, qui on a effectivement annoncé Hülkenberg chez Force India. On a en tout cas dit qu'il aurait scellé son avenir ce week-end. Le nom de Force India circule en remplacement de Sutil qui ferait le chemin inverse chez Sauber. Donc c'est des échos du paddock. Et surtout, ce qui est intéressant dans la réaction de Lotus, c'est que Lotus a clairement dit Hülkenberg est notre choix. Pour qu'il le revendique autant à ce moment-là, je pense que c'est parce qu'ils sont en train de le perdre. Donc c'est qu'ils veulent vraiment communiquer sur le fait on veut Hülkenberg, faut juste qu'on ait le temps de l'avoir, parce que sinon si c'était avec Lotus que Hülkenberg avait signé, ou en tout cas qu'il était en discussion très avancée avec un accord de 80% de chance d'aller chez Lotus l'année prochaine, je pense que Lotus aurait pas déclaré ça. Ils auraient tout simplement attendu de le moment opportun pour faire une annonce et pas de dire c'est notre choix sans rien annoncer. Donc je pense qu'aujourd'hui effectivement ça donne du poids aux rumeurs en voyant Hülkenberg chez Force India.
On continue avec Adrien Sutil qui a expliqué la semaine dernière qu'il y avait de fortes chances qu'il continue l'aventure Force India, mais que malgré tout, la suite de sa carrière n'était pas que du ressort de l'écurie indienne et qu'il avait lui aussi son mot à dire. Il a déclaré que c'était du 50-50 dans ce choix pour continuer. Vous lisez ou vous ne lisez pas ?
Ouais, je lis pas. Ouais, j'ai lu, mais... Oh là là, quel intérêt.
Sincèrement, c'est ça. J'ai lu, mais je m'en fous. Mais non, mais Sutil, en début de saison, il a fait une bonne course en Australie, et puis finalement, il est revenu, il est pas plus mauvais que, ni moins bon que ce qu'il était quand il est parti, mais.
Non, et puis le mec,
qu'il a eu sa chance, c'est qu'il est arrivé au bout.
J'ai 50% de
chance
de racheter chez Force India, à un moment donné, si tu parles, c'est dit quelque chose, quoi. Arrête de parler pour dire du vent. J'ai une chance sur deux de rester chez Force India. Ouais, mais t'as une chance sur deux d'aller ailleurs, quoi.
Ouais, mais je pense qu'il a il a atteint son maximum, il peut pas faire mieux, donc ça fait quelques années qu'il se traîne. Place à un autre, quoi. Il y a des jeunes qui attendent, deux de Formule 3.5 qui aimeraient bien monter.
Désolé pour les fans de Formule 1 au sujet de la domination de Sébastien Vettel au lendemain de la victoire du triple champion allemand sur le circuit d'Hangam, la 4e de suite alors. Lewis Hamilton a finalement tempéré ses propos sur Twitter, qualifiant le pilote Red Bull de très humain, joyeux et humble, ajoutant qu'il méritait son succès. Vous lisez ou vous lisez pas ?
J'ai lu, mais c'est comme d'habitude, à chaque fois qu'une déclaration sort un peu de l'ordinaire, qu'on a un pilote qui dit vraiment ce qu'il pense, il est obligé de justifier ses propos, de lisser son discours. Bon, c'est un peu relou, ça.
C'est ça, c'est-à-dire que moi, c'est ce que je regrette le plus dans cette histoire-là, c'est ce que j'ai mis sur Twitter d'ailleurs, c'est que j'ai envie que Lewis, quand il dit un truc, bah qu'il s'y tienne, quoi, et qu'il ait pas besoin de revenir le lendemain. Donc c'est la preuve aussi que c'est un pilote qui a pas forcément réfléchi à ce qu'il disait et aux conséquences. En même temps, on demande pas forcément aux pilotes de réfléchir aux conséquences de ce qu'ils disent, et qui a été rattrapé par son service de com ou le service de com de Mercedes, parce que voilà, il fallait pas non plus être trop incisif envers Vettel et trop. Mais ça montre que il y a effectivement derrière une rétention, là où on a Vettel qui dit que les autres se trempent les couilles dans la piscine, et chez Red Bull on dit ouais c'est bien, vas-y continue, et il y a une certaine liberté de parole du côté de Vettel que on ne sent pas chez Lewis Hamilton, alors qu'il est plus chez McLaren.
Et pour terminer, interrogé sur la saison 2014, Fernando Alonso a déclaré la semaine dernière que pour lui, Felipe Massa n'était pas plus lent que son futur équipier Kimi Raikkonen. Vous lisez ou vous lisez pas?
Bah, tu lis. Enfin, forcément, dès que ça parle de Raikkonen, mais non, mais ça va être le duo qu'on va suivre, qui va forcément attirer le plus d'attention l'année prochaine. Donc, forcément, quand l'un parle de l'autre, même si Raikkonen n'a pas encore dit grand chose sur Alonso, il ne dira probablement jamais grand chose. Tu lis. Enfin, en ce qui me concerne, forcément, tu lis.
Il me saoule Alonso en ce moment avec ses déclarations, mais c'est un truc.
Mais tu sens le mec frustré, hein. Il y a rien
mais
à faire.
Non, mais ça m'énerve parce que t'as envie qu'il se taise, quoi. Autant je trouve que c'est quelqu'un qui est intéressant quand il parle Formule 1, quand il parle de son championnat et compagnie. Autant là, les ficelles sont trop grosses, quoi. Enfin, c'est trop politique, c'est trop chambreur. Enfin, puis en même temps, en ce moment, il m'énerve Alonso dans ses déclarations. Qui se concentre un peu sur son pilotage, sur sa course et sur aider Ferrari. Parce que, on n'arrête pas de dire qu'il surnage chez Ferrari. Mine de rien, on parle quand même d'une écurie, d'une alliance entre un pilote et une écurie. Pour le moment, force est de constater qu'il faudra peut-être que Fernando Alonso se dise, qu'il se remette en cause en se disant, bon, d'accord, j'ai des résultats en piste. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas des trucs que je peux faire non plus en coulisses pour aider l'équipe, plutôt que de faire des déclarations à l'emporte-pièce comme ça, qui amènent rien, qui sont pas constructives.
Ouais, parce que ça risque de lui jouer des tours, même l'an prochain, par rapport à l'ambiance dans l'écurie. Hein.
Bon, t'inquiète pas, en 2015, il est chez McLaren.
À mon avis, 2014, il va ranger son frein et il va vouloir se casser pour 2015, ça me paraît clair.
Et ben donc, voilà pour ce tour de l'actualité rapide. Est-ce que, pour finir, il y a une actu qui n'a pas été citée que vous aimeriez aborder?
Ah ouais, non, moi il y a Caterham qui va s'engager en moto 2 avec l'équipe Sutter. Et voilà. Il va falloir juste qu'on m'explique.
Joli pop. Mais Caterham, c'est partout maintenant. Au Mans, en moto 2, avec Renault. Enfin, tu te dis déjà qu'ils essayent de réussir en Formule 1 avant de se lancer d'autres défis, quoi. C'est ce que j'ai tweeté. C'est un peu les délires de milliardaires de Tony Fernandez, alors que bon.
Ouais. Bah moi,
pour l'instant,
pour l'instant,
Caterham n'a rien gagné nulle part à part en Coupe Caterham, quoi. Veux dire.
Ouais, moi, j'ai lu parce que j'ai vu le tweet de Dino, en fait. Mais sinon.
Rien d'autre.
Eh bien, je ne pense pas.
Eh bien, à toi, Alain.
Merci Fab pour ce bien beau tour d'horizon de l'actu pour Saint-Gédino.
Ouais, ouais, ouais.
Eh bien messieurs, on va passer aux qualifications. On va jouer dans la bonne humeur. Et donc les deux guignols de la semaine, est-ce que vous vous souvenez qui c'est?
Il y a Vergne avec ses freins.
Oui.
Ouais. Il y a pas Sutil.
Si, Vernier Sutil, 18e et 17e.
C'est ça.
À noter parmi les Marussia et les Caterham que Chilton s'est qualifié devant Bianchi, qui était 22e, Pic devant les Caterham aussi, Chilton.
Ouais.
Voilà, avec Pic devant Vandergaard, me semble-t-il.
Bon, rappelons quand même que Jules Bianchi sur l'ensemble du week-end, Jules Bianchi a fait 33 tours.
Il a eu quelques déconvenus, on va dire.
Bon, ouais, ça fait plusieurs week-ends qu'il n'arrive pas à tirer parti des essais, soit parce qu'il court pas les essais libres 1, et ce qui mine de rien le place dans une position un petit peu délicate. À chaque fois, il est assez peu devant Chilton dans ces conditions-là. Et là, c'était l'accident des essais libres. Donc bon,
après, Chilton fait pas une mauvaise fin de saison, au contraire.
Non. Il est là, mais. Et ça, c'est toujours plus dur quand tu démarres fort d'impressionner après. Là, Chilton, il a démarré très difficilement et forcément, il se rapproche. Enfin, c'est logique aussi. Il gagne de l'expérience, il gagne de l'assurance. Voilà, il connaît l'équipe. C'est bien ce qu'il fait. Non, mais c'est bien.
Ouais, puis Bianchi a été renouvelé par lui, donc il y a peut-être une carotte aussi qui fait aller plus vite.
C'est pour ça que les lapins sont rapides. Ils mangent des carottes. Voilà, c'est mon cadeau pour les auditeurs. C'est mon four.
C'est Shinji hein, qui se lance avec ton VNG, c'est pas toi. Hein.
C'est dommage que tu fasses pas des machines à laver, quoi. Enfin. Et donc en Q2, c'était très serré parce que du 1er au 15e, il y avait 8 dixièmes. Et entre la 10e place et la 15e, il y avait aussi 2 dixièmes. Donc vraiment très très serré en Q2. Et donc 16e, c'était Daniel Ricciardo, qui finalement, en faisant de bonnes Q1, ben arrive assez rarement à creuser vraiment l'écart en place sur la grille avec Vergne. 15e Maldonado, 14e Gutiérrez, hein, qui n'aura pas réussi à repasser en Q3, 13e Bottas, devant Maldonado encore, hein, donc même s'ils ont une trapanelle, ben, il arrive quand même à devancer Maldonado.
Ça c'est le pays en course.
D'ailleurs, on a vu que maintenant, Maldonado avait pris conscience qu'il avait un coéquipier et qu'il serait peut-être temps de le battre.
Oui.
Régulièrement.
Oui, avant de vouloir
quitte
remonter.
Quitte à devoir jouer avec toute la surface de sa voiture.
Ouais, régulièrement. C'est pas le mot à employer, mais bon.
Ensuite, à la 12e place, c'était Paul Di Resta. Donc, devant Sutil, hein, qui était lui en Q1. Et Mister Eleven, pour cette qualification, c'était Sergio Perez. Et donc c'était très très serré, ça s'est joué à quelques millièmes pour qu'il ne passe en Q3 par rapport à justement...
En Q2, ce qui a été assez impressionnant, ça a été le temps de Grosjean en pneu dur,
oui.
Qui a d'ailleurs un peu faussé la vision globalement de la course, je pense aussi de Grosjean, qui sans doute se sentait moins confiant en partant au départ avec les médiums qu'avec les durs, qui s'est avéré l'inverse en course. Mais c'est vrai qu'il avait fait, parce qu'il était sorti, je crois, une première fois avant le drapeau rouge de Vergne. Attendez. Avant le drapeau... Bah si, c'est ça, c'était en Q1 ou en Q2, le drapeau rouge?
C'est en Q1, le drapeau rouge.
En Q1,
le drapeau rouge.
En Q1, ouais. Donc, quand il était sorti à faire son temps en dur, qui était passé, qu'il avait pris la... Oui, d'ailleurs, c'était en Q1, son temps en dur, non?
Mais il est aussi en dur en Q2, hein. Les Lotus restent en dur en Q2.
En fait, il est sorti au moment du drapeau rouge, il était sorti en médium, et en re-rentrant, il est ressorti en dur.
Ouais,
il a
voilà,
fait son temps de Q2 en dur.
Il a claqué le temps en dur, donc, et c'est vrai que c'était assez impressionnant sur le déroulé des essais, parce que on voyait les autres batailler avec les médiums, parfois à la limite, et lui, en dur, il avait claqué ce temps-là, quoi.
Le vendredi, en tout cas pendant les essais libres 2, les Lotus c'était pas exceptionnel en dur, quoi.
Oui, ils étaient pas très très contents, ils étaient bien davantage satisfaits le samedi, et il l'a dit dans les divers bilans qui ont été publiés par Lotus.
Mais apparemment dimanche ils ont de nouveau été moins performants avec les durs. Mais on va y revenir.
Oui, on a tout le temps devant nous. Et donc en Q3, 10e Jenson Button, voilà. 9e Raikkonen, 8e Alonso, 7e Hülkenberg, donc toujours en Q3, hein, une bonne performance pour les Sauber. 6e Nico Rosberg, 5e Felipe Massa, 4e Romain Grosjean. Donc c'est vrai que par rapport au Q2, à la Q2 et à la Q1 de Grosjean, il y avait de quoi être peut-être un petit peu déçu, même s'il l'a pas trop montré.
Ouais, enfin, c'est toujours pareil, c'est quand même pas. Enfin, le problème, c'est que ça a été d'un jour à l'autre, c'était soit avec les composés tendres, soit avec les composés durs, enfin médium, soit avec les composés durs qui se sentaient à l'aise. Effectivement, il avait dit qu'avec les composés médium, il avait vraiment plus de mal. Après, moi, ce que je regarde, c'est l'écart quand même avec Raikkonen, quoi. Raikkonen, c'est encore manqué en qualification. Ce qui est malheureux, c'est qu'on arrive à une période de la saison où la hiérarchie s'établit très vite lors des Grands Prix, et manquer une qualification, hormis incident de course qui amène le safety car, tu peux quasiment plus remonter sur le podium, hein, si tu te loupes vraiment, quoi.
C'est ce qu'a dit d'ailleurs Alan Perman aujourd'hui. Il a expliqué qu'en fait le problème de Raikkonen, c'est qu'avec l'introduction des nouveaux pneus, il a beaucoup de mal avec l'avant. Et on sait que depuis 2 ans, Raikkonen est très exigeant avec le comportement avant de sa voiture. Ce qui est d'ailleurs rassurant parce que chez Ferrari, l'année prochaine, on aura 2 pilotes qui aiment bien avoir un train avant assez précis. Voilà, et ça c'est quelque chose qui s'est vu notamment en Corée avec le train avant qui se dégradait vite. Et là aussi, apparemment, chez Kimi Raikkonen, c'était avait encore un problème avec le train avant, au point que, mine de rien, ça pose des questions chez Lotus, parce que lors des essais libres, je cite ma source, omnicorse.it, ils ont envoyé Davide Valsecchi faire le tour du circuit pour comparer le pilotage de Grosjean et de Raikkonen, parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi Raikkonen était aussi loin derrière Grosjean. Et les conclusions de Valsecchi, c'était que Grosjean était très propre dans ce qu'il faisait, là où Kimi Raikkonen avait tendance à bouffer les vibreurs et à être très agressif. Et ça s'explique peut-être par ce défaut de contrôle de l'avant, où Raikkonen est obligé peut-être d'un peu plus taper dans la voiture. Et
ouais, et puis il a fait deux erreurs dans son tour qualif, il l'a dit. Donc façon, c'est vrai que si on regarde depuis son retour, c'est que les qualifications, c'est clairement pas son point fort, hein, mais là, un peu déçu, parce que c'est vrai que au terme du vendredi, il était quand même assez content lui de sa voiture. Il trouvait que c'était un très très bon vendredi, ce qu'il est assez optimiste pour la suite. Et là, c'est vrai que 9e, surtout qu'en Grosjean fait 4, donc tu te dis qu'il y avait moyen de faire un peu mieux quand même.
J'avais pas le sentiment sur la première carrière de Raikkonen qu'il était en difficulté dans l'exercice lancé. En tout cas, pas plus qu'on pourrait l'être si on est un pilote de sa trempe. Mais je veux dire, là actuellement, c'est quand même assez criant et ça pose de réels problèmes, quoi, parce que tu peux pas, lorsque la hiérarchie est établie, t'en sortir comme ça. Quoi, c'est...
Bon, allez, on passe au top 3. Hamilton s'est donc qualifié 3e, et la première ligne, donc Vettel, avec ses petits problèmes de Kers. Est-ce que le Kers marche? Est-ce que le Kers n'a pas marché? On ne sait pas trop. Mais du coup, c'est Weber qui a réalisé cette pole position.
Alors, Vettel, le Kers a fonctionné en Q1, il n'a plus fonctionné en Q2. Et il a refonctionné en Q3 avec notamment ils avaient trouvé une solution où ils lui ont demandé d'activer deux fois le KERS en cas d'échec. Donc ils avaient trouvé une procédure en cas d'échec. Mais sinon visiblement il avait le KERS en Q3, même si les vitesses de pointe de Vettel sont pas comparativement à Weber en qualification sont pas énormes. Donc à voir s'il l'a vraiment utilisé ou pas.
On va voir aussi si Weber n'avait pas des réglages plus comme il avait, oui, en Corée sur la vitesse de pointe. Donc moins d'appui.
Mais en course, on retrouve, ils sont sensiblement ex aequo au niveau de la vitesse de pointe. Je crois que c'est 308 pour Weber et ça doit être 306 ou 307 pour Vettel. Là où en qualification, c'est je crois 304 pour Weber et 297 en vitesse de pointe pour Vettel. Donc voilà.
Oui, donc plutôt on tendrait vers un Kers qui n'a pas fonctionné, quoi.
Voilà.
Bah, de toute façon, à la fin de son tour, il déclare à sa radio, mais d'un ton un peu un peu fataliste. On pouvait pas faire plus. Ce qui tend quand même à penser qu'il y avait un problème, parce que
la voiture était horrible au freinage, il a dit aussi, je crois.
Donc ça renforce aussi ce côté-là, quoi. Ça renforce la problématique du Kers, quoi. Donc à mon avis, il avait effectivement un problème de Kers dans ce dernier tour.
Mais belle pole position, sachant que le Kers est peut-être le secret de la Red Bull, être handicapé par le Kers, pas forcément un gros avantage.
Oui, oui.
Chez Red Bull, ça risque d'être un peu plus grave que chez les autres.
Et donc la pole de Weber en 1:39.115, c'était sa 12e en carrière à 229,942 km/h de moyenne. C'était la 53e de Red Bull et la 209e de Renault en tant que motoriste. Donc qui passe définitivement. Qui passe vraiment devant Ferrari, qui eux sont bloqués à 200.
Ouais, ça a l'air bien parti quand même.
Oui, oui, c'est vrai que pour l'instant la tendance est à l'augmentation de l'écart.
C'était d'ailleurs une très belle réponse au propos de Toto Wolff, qui a déclaré qu'il avait visité l'usine Ferrari il y a quelques semaines. J'aimerais savoir dans quelles conditions, parce que ça, il ne l'oublie pas. Et que ça lui avait inspiré cette réflexion de mémoire, c'est l'ingéniosité allemande, l'improvisation italienne et le laisser faire
à la française.
À la française. Et, et quand ils ont signé la pole, Renault a dit on a laissé faire.
Et donc à noter qu'après ces qualifications, il y a eu plusieurs pénalités, donc déjà certaines qui sont transposées de la Corée pour Piquet et Bianchi, 10 places suite à leur troisième réprimande, donc pour ne pas avoir assez ralenti lors d'un drapeau jaune lors du Grand Prix de Corée. Pic s'est en plus vu infliger un drive-thru pour un week-end chargé pour Pic, pour grosso modo ne pas avoir eu beaucoup de chance avec le drapeau rouge en Q1, puisqu'il est passé 5 secondes après l'allumage du feu rouge en bout de ligne droite des stands. Donc il s'est vu infliger donc un drive-thru à observer, je crois que c'est une première, un drive-thru à observer dans les 5 premiers tours de la course.
Ah ouais.
Donc il a
c'est très mauvais précédent hein. Parce que ça va donner des idées aux autres.
Oui. Mais c'est surtout faudra voir surtout si c'est pas une mesure qui vise à compenser le fait que dans le cas de Caterham et de Marussia, une pénalité de 10 places est assez peu pénalisante.
Non mais c'est le truc c'est qu'il avait déjà une pénalité de 10 places, donc si même si tu lui en remets 10, ça sert à rien.
Voilà, non mais c'est ça, c'est je pense que c'était parce qu'en plus apparemment ça fait déjà deux fois en Corée, il avait déjà eu ce problème là avec un feu rouge qu'il avait pas respecté. Donc je pense que les commissaires ont voulu frapper et ont estimé que une pénalité en place était pas suffisante et n'aurait pas sanctionné et donc fallait taper fort. Je crois que c'est pas au Mans où qu'il y avait eu comme ça une sanction de ce type là où il y avait un drive-thru dès le départ, il fallait passer
C'était les Pescarolo je crois qui avait changé de moteur et qu'il avait dû ils avaient dû faire ils sont partis avec un tour de retard sur tout le monde. Voilà.
Ce qu'il faut dire c'est que effectivement il y a eu la c'est que c'est de la récidive effectivement qui justifie ça. Voilà, c'est toujours pareil hein. Depuis quand d'où ça sort? Bon voilà.
C'est même pas sûr que ce soit un cas prévu par règlement.
C'est certain que c'est pas prévu par règlement comme d'habitude de toute façon. C'est leur manière de ne pas avoir de contraintes, c'est de ne pas avoir de sanctions qui correspondent à des infractions. Ils donnent au petit bonheur, enfin ils donnent pas au petit bonheur la chance, mais ils donnent à personne comme ils veulent.
Est-ce qu'ils ont le droit d'infliger pour une session des pénalités en avance quoi?
Ils le font bien d'une certaine manière quand ils pénalisent sur la grille pour le Grand Prix précédent.
Ouais, mais c'est prévu, prévu précisément dans le règlement. Là, je crois pas que noir sur blanc il soit écrit dans le règlement.
Oui, mais la spécificité du règlement, c'est que le règlement laisse la décision à discrétion des commissaires. Donc, tu peux pas te reposer sur l'argument qui consiste à dire est-ce que c'est dans le règlement, dans la mesure où le règlement, s'il ne stipule pas une pénalité, de toute façon il n'en stipule aucune exacte, il laisse toujours le choix. S'il ne stipule pas une pénalité, c'est parce qu'il laisse justement la responsabilité au commissaire de désigner une pénalité. Mais cette pénalité, elle s'inscrit aussi dans la logique qui est celle de l'année prochaine avec les pénalités moteurs où on pourra cumuler sur plusieurs grands prix une pénalité moteur si vous reculez que de 2 places parce que vous êtes 20e et que vous avez changé de moteur. Vous reculerez de 8 places le grand prix suivant pour faire vos 10 places. Il y a vraiment une volonté d'avoir des pénalités véritablement pénalisantes. Je pense vraiment que c'est dans cette idée-là, c'est de véritablement avoir une sanction qui punit et plus forcément une sanction automatique. Moi, ça sincèrement, ça me dérange pas forcément si derrière l'explication est claire et que la pénalité est justifiée.
Oui, ce qui était le cas là.
Dans ce cas-là, la pénalité est justifiée.
Et donc, dernière pénalité distribuée avant la course, une pénalité de 5 places pour Adrian Sutil, qui a dû changer de boîte de vitesse en dehors du cycle de 5 Grands Prix, inscrit dans le règlement.
Ce qui doit
du coup. Oui.
Au départ.
Non, mais ce qui, du coup, donnait une grille un peu bizarre, puisque Pic et Bianchi, avec leur pénalité de 10 places, étaient devant Sutil. Ils étaient 20e et 21e. Ils étaient devant Sutil, qui n'avait qu'une pénalité de 5 places.
C'est dingue.
Puisque c'est dans l'ordre de l'attribution des pénalités. Donc, Pic a été le premier à recevoir sa pénalité avant Bianchi et donc Sutil. Voilà.
C'est pour ça qu'il suffirait simplement de mettre dans le règlement qu'une pénalité de 10 places te relègue, si t'es 22e, enfin, si t'es 20e, te relègue à la 30e place, même si tu partira de la dernière place sur la grille à la 22e position, mais au moins s'il y a d'autres pénalités derrière, quelqu'un qui recevra 5 pénalités restera malgré tout devant toi et tu seras véritablement pénalisé.
Mais est-ce qu'il n'y a pas des circuits où il n'y a pas assez d'emplacements tracés sur la grille? C'est peut-être ça aussi le
truc.
Non
mais je te parle pas d'en réalité, je pense qu'en réalité tu pars toujours de la 22e place du 22e.
Ah oui d'accord, et après de reformer
en tout
la
cas,
grille.
Dans la
logique,
quand tu fais la grille, de juste mettre un article, quand t'es pénalité de 10 places, bah t'es quand même relégué à la 35e place et à la fin la grille elle est remise sur une grille réelle, mais au moins t'as une grille comme ça, t'as quand même pas besoin d'être public, mais au moins t'as une justification des pénalités.
Eh bien, nous enverrons un courrier à Jean Todd pour qu'il
puisse aller de l'avant.
Oui. Bon, bah, puisque nous sommes tous là, on va passer au top 10.
Enfin !
Est-ce que je vais le terminer ?
Ah, question, restez avec nous pour le savoir.
Le service après-vente de la F1 vous présente le top 10 de la course.
Et donc, Dino, qui sont les recalés de ce top 10 ?
Ah, ils sont nombreux, ils sont 12. J'ai appris à compter avant l'émission. Et donc, en 22e position, nous avons Guido van der Garde, qui cumule le petit score de 6 points. Bravo Guido, hein, pour 363 mètres, c'est pas mal. D'ailleurs, on va voir qu'il y a des disparités dans ce classement par rapport à la distance de course. En 21e position, nous avons l'homme qui attaque son coéquipier, Pastor Maldonado, 14e position, juste derrière Paul Di Resta, 20e avec 15 points. En 19e position, Max Chilton marque 16 points, autant que Valtteri Bottas, qui s'est classé devant lui et qui est dans notre classement, donc 18e. En 17e position, il a marqué, c'est dingue, le hasard le veut, il a marqué 17 points. Mais a-t-il la voiture numéro 17? Il ne me semble pas, puisque c'est Adrian Sutil. En 16e position, nous avons Charles Pic avec 44 points, qui est juste derrière Jules Bianchi, hein, qui a le meilleur ratio kilométrique cette semaine, avec 48 points en 15e position. 14e,
c'est plus d'un point autour.
14e, nous avons Daniele Ricciardo, 61 points. 13e, nous avons Perez avec 76 points. 76 en force, wouhou, n'est-ce pas, Gigi? En 12e position, nous avons Lewis Hamilton, 169 points. Et enfin, Mister Eleven, il est beau, il est magnifique, il est mirifique, il est astronomique. Il
a Martin Whitmarsh qui...
Il a surtout des freins qui ne tiennent pas en qualification. C'est Jean-Éric Vergne avec 179 points.
Bah si, justement, ils tiennent vachement bien, c'est vrai.
Oui, ils tiennent trop.
Un peu trop.
Trop de pression.
À noter quand même qu'il y a un certain écart avec la 10e place qu'on évoquera dans quelques instants. Et surtout un gouffre avec le vainqueur dont on taira l'identité, qui a cumulé 2578 points. À noter, vous avez été 130 à voter.
Et on vous en remercie. Donc dans l'Ircalais, on est plusieurs dans l'équipe à avoir donné des points à certains qui ne sont pas dans le top 10. À commencer par toi, Dino. Alors tu as mis pour commencer Vergne 8e.
Oui, je dois dire que de la 8e à la 10e place, j'ai eu ce sentiment de me dire je mets qui et Vergne parce que il part 18e, 17e, il finit devant 18e. Son coéquipier, voilà, donc c'est vraiment là je l'ai mis au classement, mais dans les trois que je c'est les trois de fond de classement.
lui Vergne dans le genre ma vie va mal. Donnez-moi une corde et un tabouret qu'on en finisse. Il est très bien. Il a fait référence à Weber tellement il se sent malchanceux. C'est dire quand même si on est quand même proche du niveau ultime de la malchance.
Si Weber pouvait prendre son chat noir chez Porsche l'an prochain, ça l'arrangerait. Marc, si tu nous écoutes.
Ou il renomme Toro Rosso en gâteau Nero, quoi. Enfin,
oh, le mec qui réédite ses vannes.
Eh oui, je ne suis pas.
L'écologiste de l'humour ici.
Et voilà, du 21e siècle. Sinon, Dino, bon, tu as aussi mis Chilton 9e et Bianchi 10e.
Oh là, mais putain.
J'ai dit, hein, moi c'est mon fond de top 10. C'est vrai que j'en ai eu 7 et après j'avais strictement rien à dire sur les autres. Chilton, parce que mine de rien, on en a parlé un peu tout à l'heure, il a fait le boulot.
C'est vrai.
C'est pas fantastique, c'est pas le meilleur pilote de tous les temps, mais il progresse. L'écart avec Jules Bianchi s'est réduit, il reste toujours derrière, mais voilà, il fait mine de rien quand même assez peu d'erreurs. Et là, sur un circuit qui est très exigeant, très compliqué, bah, il a quand même fait le travail, même si en course il n'est pas payé, alors que visiblement la Marussia avait retrouvé un gain d'énergie. Et Bianchi, parce que là pour le coup, j'ai dit tout à l'heure, 31 ou 33 tours sur l'ensemble du week-end, un circuit qu'il connaît pas, il a quand même malgré tout réussi à être plutôt performant en qualif, en ayant fait je crois 6 tours le vendredi et en n'ayant pas forcément énormément récupéré son retard le samedi matin. Et en course, bah il peut pas faire grand chose, mais j'ai cru comprendre qu'il avait déjà dépassé les deux Caterham et son coéquipier au départ. Tu me diras, vu comment c'est fini son départ, il y a peut-être une explication. mais voilà, pour le coup, c'était vraiment les trois en dehors de mon top 7, c'était les trois que je voulais mettre un tout petit peu en valeur.
En F1, ce week-end, on a très bien vu ce qui séparait la F1 de la NASCAR. C'est les explications des pilotes, entre eux. C'est resté très coulé, hein, à chaque fois. C'était, bon, ouais, t'as peut-être fait une connerie, connard. Oui, mais bon, toi, t'étais peut-être mal placé aussi. Sale ordure de merde, bon, je précise. Mais
couchez-vous. enfants. Hein.
C'était. Ouais, bah, merde, il est 22h. Non, mais sur Van der Garde, Bianchi, c'était marrant parce que c'est vrai que tu voyais très bien. Les deux étaient agacés de ce qui venait de se passer. très clairement. Et à la fin, j'ai beaucoup aimé Bianchi qui dit soi-disant que c'est moi qui l'ai percuté. Bon, ça tombe mal, j'étais devant lui. C'est vrai que vu comme ça, il y a peut-être une responsabilité de Van der Garde. Mais c'était très amusant. Il y a aussi eu la séquence en fin de course. Gutiérrez, Rosberg, très soft hein, d'ailleurs, hein. Très classe, pas un mot plus haut que l'autre. Alors Rosberg, quoi.
Surtout finalement. Que Gutiérrez derrière dit qu'il l'a juste félicité pour sa course, quoi. Alors qu'on voit très bien qu'ils font des gestes de voiture et tout. Rosberg, mais bon.
Gutiérrez a l'air de se faire féliciter, oui, sur les images.
Oui, c'est clair. Sinon, on a aussi cité Ricciardo. Alors Fab, tu l'as mis 9e et moi je l'ai mis 8e.
Ouais, oui, parce que j'ai trouvé qu'il avait fait dans l'ensemble une course vraiment très bonne. Son premier relais a duré, ce qui a, on en parlera plus tard, je pense.
Il est parti en pneu dur.
Voilà, il est parti en pneu dur. Mais après, il a fait une course vraiment très agressive, au point même de se faire sanctionner durement, hein, parce que si on dit que la sanction de Grosjean en Hongrie est dure, on peut pas dire que celle de Ricciardo à Suzuka n'est pas dure. Je vois difficile.
Justement, c'est une sanction logique si Grosjean est pénalisé en Hongrie, lui aussi doit l'être encore plus.
C'est une sanction logique, mais c'est une sanction qui reste quand même assez sévère surtout dans l'endroit où elle se passe, parce que qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Oui, alors on va dire lever le pied, effectivement. Enfin, c'est la solution à tout ça. Mais après, j'ai trouvé qu'il a fait une course globalement très bonne. C'est encore un week-end où je considère qu'il a quand même largement devant ses vergnes, même si le résultat final n'est pas en sa faveur, mais parce que aussi.
À cause du drive-thru, du coup.
À cause du drive-thru. Donc je pense qu'il méritait mieux et je pense qu'il aurait pu accrocher une place dans le top 10 sans ça.
On a aussi cité Di Resta, c'est toi, Ben, qui l'a mis 10e.
Oui, bref, c'est toujours compliqué. En fait, le top 10, tu commences, tu te dis ça va être facile, tu mets le premier, puis t'arrives au bout. Et tu te dis merde, il faut remplir. Non, bah, Di Resta, il a fait 3 ou 4 courses assez mauvaises. Et ici, il n'est pas forcément brillant en qualification. En course, je sais plus le résultat complet, mais je vais vous le trouver.
Il est 11e, je crois.
Voilà, c'est ça. Il fait pas. Il ressort d'une série de courses compliquées sur le circuit où, manifestement, en tout cas, si on juge les perfos de ce style, la voiture n'était pas non plus au top. Donc, je pense qu'il a tiré le maximum de ce qu'il pouvait avec son matériel. Et puis, c'est un bon moyen de se redonner un peu confiance sur une fin de saison qui, à un moment où son avenir n'est pas forcément assuré non plus. Quoi.
Son sourire te manquait, en fait.
Non, mais c'est bien pour lui. Maintenant qu'il pourrait quitter la Formule 1, il ne manquerait pas, mais. D'abord parce que pas sûr qu'il peut forcément aller faire beaucoup mieux que ce qu'il fait. Je pense qu'il a quand même une certaine difficulté à maintenir le niveau sur toute une saison. Déjà l'an dernier face à Hülkenberg en fin de saison, on voyait bien que voilà. Donc c'est vrai que là voilà, il a
ouais, mais on en fait trop avec Hülkenberg.
De course compliquée. Donc c'était juste pour souligner ça.
C'est vrai que Forcilia
et j'ai voulu vraiment mettre faire vraiment mal. 10. Mais puis je me suis dit mais il finit devant son équipier parce que son équipier a une pénalité, donc
on s'en fout, c'est devant.
Mais oui, mais j'ai
soyez patriote,
pas mon objectif. Voilà, sur le 10e place, il y a d'autres où je me dis que j'aurais pu mettre autre chose, mais
Et donc moi en 10e, j'ai mis Pic parce que lui aussi malgré un drive-thru malgré son drive-thru qu'il a observé dans le premier tour après le drapeau rouge des qualifs. Il est bien remonté, parce que finalement, il n'y avait plus qu'une Caterham. Il avait la Caterham la plus rapide face à la Marussia, la moins rapide, entre guillemets, parce que Chilton, comme vous l'avez dit, réalise un plutôt bon week-end. Et donc, malgré son drive-thru, il finit largement devant Chilton. Donc, c'est pour ça que j'ai mis Pic. Pareil, donc, au bout d'un moment, top 10, c'est difficile à caser. Donc, je me suis dit, pourquoi pas promouvoir Charles Pic. Donc, passons au 10e, hein, si vous le voulez bien, messieurs.
Au vrai 10e. Ah là là.
Au vrai 10e. Il a marqué 322 points. Il a une combinaison grise. Il est anglais. C'est Jenson Button. Ben, tu l'as mis 7e et nous autres ne l'avons pas mis dans le top 10.
Oh.
Alors, Ben.
Là, je pense comme les auditeurs, parce que c'est tout.
Je suis un peu de l'avis de tout le monde.
Voilà. Non, mais Button, il fait pas non plus un mauvais week-end.
Et puis je voulais pénaliser Raikkonen, donc j'ai reculé Raikkonen. Il fallait que je mette des gens devant.
Tu voulais pénaliser Raikkonen?
Attends.
Ouais, mais non, mais Raikkonen, je trouve qu'il a, enfin, j'ai pas trouvé. Bon, on reviendra, mais je l'ai
mais
pas
reviendra,
trouvé
ouais.
sur le week-end. Mais Button, voilà, je pense que la voiture était pas exceptionnelle à piloter, que il s'est un peu, je pense que Button, il a un peu tiré le maximum de la voiture, et le fait que ce soit au Japon, ça le motive un peu plus que d'autres circuits. Et donc voilà.
Il faut dire que les McLaren ont été en trois arrêts les deux, alors que les voitures qui les entouraient, qui sont mieux classées, ont fait deux arrêts. Quoi. Disons que
c'est
d'habitude.
C'est parce que c'est pourtant une équipe qui est plutôt économe, entre guillemets économe avec ses pneus. Et,
voilà, c'est ça.
Plutôt sur des stratégies conservatrices, là où ils ont été offensifs ce week-end.
Bah, peut-être qu'en sachant que c'était un circuit très abrasif, ils ont voulu tirer parti de ça en utilisant une stratégie agressive.
Peut-être.
Ouais. Je sais. Mais c'est quand même.
Ce qui est étonnant, c'est qu'ils mettent les deux dans le même panier, quoi. C'est, il va peut-être falloir qu'ils engagent, pas Prodromou, mais, le responsable
le stratège de Red Bull.
D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient peut-être s'intéresser ouais. au stratège de chez Red Bull.
Il va faire des envies.
À tous les postes de chez Red Bull, hein, on va dire, globalement.
Bon, l'année prochaine, le pilote numéro 2, je pense que peu de gens vont s'y intéresser, mais.
Non, mais McLaren, c'est long, hein. C'est long. Je me rappelle, en début de saison, après quelques courses, on se disait que McLaren pouvait accrocher un podium. Je crois que ça va quand même être difficile.
Ouais, c'est la pire saison de la histoire.
Un sacré concours de circonstances parce que ouais. elles sont quand même, alors même si elles sont régulières dans leur performance, c'est pas vraiment à un niveau très très satisfaisant. Bon, évidemment, on a lâché le développement complètement en 2013, mais
comme tout le monde, hein, faut dire.
Ouais, mais quand même. Beaucoup plus tôt. Et bon, oui. C'est vrai que là, on progresse vraiment pas, quoi. Alors pour le coup, les autres non plus.
Donc on passe à la 9e place. 9e avec 377 points. C'est donc l'autre pilote Mercedes qui est dans le top 10. C'est Nico Rosberg. Donc Fab l'a mis 8e, donc on saura pas trop ce qu'il en pense, j'ai l'impression, hein. Et Ben, tu l'as mis 9e.
Oui, bah une course qui vaut pas plus que la 9e place. Enfin, je veux dire, il est derrière Hamilton en qualif. Il est 6e si je m'abuse, c'est ça sur la grille.
Oui.
Ouais. Et voilà, j'ai des problèmes avec mes notes. Ouais. Il finit 8e, c'est quand même pas non plus. Bon, il y a une pénalité aussi. Me paraît voilà qu'on pénalise l'écurie, c'est totalement normal. Maintenant qu'on pénalise le pilote,
je me suis un peu intéressé au précédent cette année. Il y avait le cas de Toro Rosso un peu plus tôt dans l'année, qu'ils avaient reçu une pénalité financière et pas de drive-through. Alors après, mais je crois qu'avoir eu un exemple il y a quelques semaines aussi, je crois, d'une Toro Rosso, il y avait eu un drive-through donc.
Ouais, mais c'est vrai que
le pilote fait aussi partie de l'écurie, vous pensez
oui,
pas?
Oui, oui, oui.
Ouais,
mais c'est un tout, hein. Enfin, c'est pas, moi, ça me fait toujours rire. C'est à un moment donné, le pilote, il est dans la voiture, même si c'est pas, c'est dommage pour ce qu'il fait comme pilotage, mais la pénalité, à un moment donné, faut bien l'appliquer. On sait très bien que les pénalités financières sont déséquilibrées et surtout, certaines équipes en ont strictement rien à foutre.
Autre chose sur la course de Rosberg?
Bah non, une course à la Rosberg, finalement, hein.
Oui.
Enfin, peut-être que Fab a des choses à dire, il a mis 8, mais bon, bah Fab.
C'est une énigme, ce Fab. Vous savez.
Pourtant, on lui tend des perches, hein, mais ouais.
On passe à la 8e place, messieurs, oui. Avec 548 points. C'est un pilote Ferrari. Il est brésilien, c'est Felipe Massa. Fab l'a mis 10e et je l'ai mis 9e. Dino et Ben, vous l'avez pas mis. Donc Fab, bon. J'imagine, va pas dire grand-chose.
Eh bien, détrompe-toi.
Oh là.
Eh oui.
C'est une vraie pochette surprise, Fab, en fait, c'est ça. Vas-y, Fab.
Oui, alors c'est juste pour dire que moi, c'est vraiment du remplissage, là, par contre.
Bah, c'est vrai que moi, c'est un peu la même chose. Moi, je l'ai mis 9e, tu l'as mis 10e, donc bah, c'est pareil.
Vous remplissez mal, les gars.
Bon, je ne te permets pas. Non, mais il fait pas une mauvaise course. Mais c'est pareil, en fait. C'est une course bah, un peu gâchée par le drive-thru, donc le résultat s'en ressent. Et, non, une course pas mauvaise, après, c'est sûr. C'est sûr que quand on met 9e, ben on pense qu'il y a eu 8 pilotes qui ont fait de meilleures courses.
Moi, clairement, je l'ai pas mis parce qu'il n'a pas respecté les consignes Ferrari. C'est un peu manquer de respect à cette équipe et à ses fans que d'un coup, parce qu'il n'y a plus de contrat, il n'y a plus d'avenir chez Ferrari et compagnie, de de jouer sa propre carte. Voilà, si vous voulez vraiment la jouer, c'est ce que je dis depuis des semaines, si vous voulez vraiment jouer sa carte, fallait la jouer dès le départ. Il a accepté d'être un numéro 2 pendant des années. Clairement, aujourd'hui, on sait qu'il l'a accepté. C'est un aveu, aujourd'hui, qu'il fait sur la piste. Il a accepté son statut de numéro 2 parce qu'il y avait la carotte de son contrat derrière. Voilà, je trouve que ça montre que c'est pas un pilote qui a eu du courage et qu'aujourd'hui, bah, il peut pas se plaindre du statut parce qu'il a assumé son statut. Et voilà, je trouve ça particulièrement... D'ailleurs, je regrette que Ferrari ne le sanctionne pas. Ils auraient dû le sanctionner parce qu'il y a le refus d'une consigne. Si ça avait été à d'autres moments, je pense que Ferrari aurait sanctionné. Bah là, fallait sanctionner.
Ouais, enfin, en même temps, il l'aurait laissé passer. Enfin, moi qui respecte pas la consigne, personnellement, dans l'absolu, dans le contexte actuel, je m'en fous. Il l'aurait pas accepté dans un contexte où Alonso avait encore de réelles chances de remporter le titre. Là, j'aurais trouvé à redire, parce qu'effectivement, Massa n'a plus aucun enjeu dans son championnat. Alonso, bah, aujourd'hui, il en a plus non plus, hein. Il reste quelques points qui font que mathématiquement, il peut encore. Mais enfin, bon. Voilà, dans 15 jours, ce sera plus le cas, à faire régler.
Ne vendons pas la peau de l'ours.
Donc là, voilà, maintenant, on se serait trouvé dans un contexte différent avec une vraie possibilité pour Alonso de réduire un écart sur Vettel. Je trouve que là, Massa aurait dû le laisser passer ici dans le contexte actuel. Aujourd'hui, l'intérêt du championnat pour Alonso, il est où?
Voilà, oui, non, mais c'est ça, c'est ce que dit
c'est aussi l'excuse utilisée par Ferrari. Donc là, pourquoi Ferrari donne des consignes à la limite? On peut se poser la question dans ce cas-là aussi. Alors.
Pour maintenir l'espoir, il y a Montezemolo qui a déclaré aujourd'hui hier qu'il voulait pas entendre de concentration sur 2014, qu'il voulait que l'équipe reste déterminée sur la saison parce que il faut quand même renvoyer l'image d'une équipe qui continue d'y croire. C'est le discours d'Alonso malgré tout. Enfin, Alonso, il dit toujours, il tient les deux discours. C'est j'y crois plus, mais en même temps, tant que c'est pas mathématiquement joué, je vais encore faire semblant d'y croire. Voilà, si ils doivent montrer qu'ils continuent quand même de se battre, même si, je pense que concrètement, c'est que de la com. Hein.
Ce serait une faute que de pas essayer quand même, même si évidemment, il y a une chance sur 1 milliard. Je veux dire, c'est un peu l'image d'Alonso aussi. C'est quelqu'un qui est toujours là pour prendre des opportunités. Alors là, c'est sûr que l'opportunité ne se présentera sûrement pas, mais...
Je trouve aussi que c'est un peu faux cul de la part de Ferrari de donner la consigne. Voilà, d'ailleurs, de toute façon, ce qui se passe après dans la communication à la fois d'Alonso et de Ferrari, c'est qu'on accepte ça, parce que déjà, on n'a pas d'autre choix que de l'accepter. Mais en plus, de toute façon, il a prévenu. Enfin, je veux dire,
ouais, c'est un peu un non-événement comme la consigne, enfin, comme l'affaire avec Grosjean en Corée, quoi. Enfin, c'est... Oui. On s'attendait à ce que... On aurait pu s'attendre à ce que Ferrari donne une consigne, on aurait pu s'attendre à ce que Massa la respecte pas.
Oui, voilà.
Oui, non, mais
il y aurait eu 10 points d'écart entre Vettel et Alonso aujourd'hui, j'aurais regretté que Massa ne joue pas le jeu, effectivement.
Ah, c'est sûr, mais de toute façon, c'est comme tout, à chaque fois qu'un pilote ne respecte pas les consignes, ça reste une faute professionnelle au départ.
Ben là,
non-respect envers un ordre d'un supérieur hiérarchique.
Ben non, je suis d'accord qu'effectivement, Massa n'en sort pas forcément non plus forcément grandi, mais bon, de toute façon, il va finir sa carrière en F1, donc il reste 4 Grands Prix, donc son image en même temps s'en fout un peu.
Non, mais par contre, du coup, on pourrait se questionner sur le timing de l'annonce du second pilote Ferrari l'année prochaine, parce que je ne me souviens plus exactement du Grand Prix, mais est-ce que c'est avant l'Italie?
C'est après, c'est juste après.
C'était un moment où Ferrari, Alonso était encore dans la course au titre de manière assez importante.
Depuis, Vettel gagne.
C'est ça. Mais ce que je veux dire, est-ce que si Ferrari avait été dans la position, est-ce que si Fernando Alonso avait été dans la position d'un vrai challenger pour le titre en fin de saison, est-ce que le timing de cette annonce n'aurait pas été un mauvais timing dans la mesure où Massa a indiqué qu'il jouerait sa carte personnelle?
On est bien dans le problème. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, on est dans une politique de communication. Ça fait longtemps que Ferrari ne croit plus au championnat, mais que derrière, ils ont l'obligation, surtout Ferrari, mais de toute façon, n'importe quelle équipe a cette obligation. Mais Ferrari encore plus parce qu'il y a une espèce de pression populaire, il y a les tifosi et compagnie. Enfin voilà, il y a cette espèce de passion autour de Ferrari. Il y a une obligation de se battre, d'y croire et compagnie. Et aujourd'hui, c'est clairement que de la com. On sait très bien, de toute façon, depuis qu'il y a les histoires avec Alonso qui est passé chez Red Bull et compagnie, que Ferrari ils ont plus la tête au championnat. Qu'ils ont déjà la tête vers 2014, voilà, et c'est le cas de pas mal d'équipes. Mais aujourd'hui, ils sont obligés de tenir ce discours et voilà, et tout ça s'inscrit dans, je pense, dans cette communication qu'il y a autour de Ferrari où il va falloir faire croire que voilà, ils continuent encore de se battre.
Oui, donc c'est bien ça, c'est bien la communication Ferrari qui est biaisée, alors que celle de Massa est très claire pour le coup.
Mais comme tu dis, s'ils ont annoncé Raikkonen entre guillemets aussitôt, même si c'est le créneau habituel de chez Ferrari, c'est au mois de septembre, c'est effectivement qu'ils sont déjà tournés vers 2014 et que voilà, ils s'exposent aussi à ce genre de situation-là. Ils le savaient, ils connaissent Massa, ils savaient très bien que Massa acceptait d'être numéro 2, mais qu'au moment où il aurait plus de carottes au bout, bah voilà, il ferait plus le numéro 2, même s'il est toujours hein, concrètement.
On passe à la 7ème place avec un pilote qui a marqué 851 points. Je l'ai mis 6ème, Fab l'a mis 6ème, Ben l'a mis 8ème et Dino l'a aussi mis 6ème. C'est Kimi Raikkonen, 7ème donc de notre top 10 du Grand Prix du Japon.
Ça va faire plaisir à certains lecteurs de Fan F1.
Oui.
Ouais, c'est toujours pareil. Hein. On en a déjà parlé tout à l'heure, mais le départ, hein, quand on se qualifie mal, on s'expose à ce que le moindre problème au départ te relègue un peu plus loin. Il part donc, il part 9e et il doit être 12e à la fin du premier tour, si mes souvenirs sont bons, parce que il se trouve sur du mauvais côté de la piste lorsque Hamilton s'écarte. Ensuite, bah, sa course finalement se résume à je mets un peu d'écart au début avec les voitures qui me précèdent pour essayer de pas trop abîmer les pneus, et puis à la faveur de deux ou trois ralentissements, notamment celui impressionnant causé par Ricciardo dans sa lutte avec Hülkenberg au moment où il est quatrième, qui a permis de raccrocher à peu près tout le monde derrière eux, bah, à la faveur de ça, il gagne une ou deux positions, ça le met après en bonne voie pour sécuriser le top 5, et il le sécurise comme d'habitude très proprement, mais il termine à combien, 40, enfin 50, une cinquantaine de secondes du trio de tête. Voilà, donc quand on se qualifie mal et qu'il n'y a pas d'incident de course, on termine très loin du podium, et sur cette course il n'a pas été flamboyant non plus, il y a eu de très beaux dépassements, notamment celui sur Gutiérrez avant le 130R, couillu d'ailleurs, hein, parce que Gutiérrez vraiment décide de freiner au dernier moment, mais voilà, donc une course correcte, mais il y a eu mieux de la part de Raikkonen, et surtout c'est toujours ce problème de qualification, quoi.
Ouais, bah c'est ça, moi c'est sa qualification que moi je l'ai mis 8e, Raikkonen, donc c'est ça. Mais c'est sa qualification que je pénalise, parce que c'est vrai que vendredi il nous a un peu vendu du rêve, le Raikkonen, en nous disant qu'il avait quasiment jamais eu une aussi bonne voiture le vendredi, qu'il la sentait bien, blabla. Donc je pense que clairement on pouvait espérer un top 5 quand Grosjean fait un quatrième, donc je pense qu'un top 5 était envisageable pour Raikkonen. Sinon c'est vrai que à l'arrivée de la course, bah il est derrière Alonso, que j'ai mis plus haut dans le classement. Mais bon voilà, il se qualifie mal avec une voiture qui pouvait clairement faire mieux. Du coup, bah départ mauvais, hein. Il se retrouve il rétrograde, et après il réussit effectivement à remonter, mais je pense que s'il avait réussi à se qualifier mieux, on aurait eu deux Lotus contre deux Red Bull, et là, la course avait encore un peu plus de gueule, quoi. Même si je pense que la victoire n'aurait pas échappé à Vettel, mais
Et ça a une influence.
On aurait eu une inconnue en plus dans l'équation, quoi. Voilà,
ça a une influence, parce que c'est clairement sur ça, on en reviendra un peu plus tard, mais c'est clairement sur ça que se joue la victoire de Vettel aussi. C'est le fait que t'as deux Red Bull face à une Lotus, et t'as qu'un pion, quoi, chez Lotus. Si t'avais Raikkonen dans le lot, ça aurait été autre chose. Là, il y aurait eu vraiment un combat d'équipe contre équipe. Mm-hmm. Là, c'était une équipe contre un pilote. C'est le combat est un peu déséquilibré.
Ouais. Oui, d'autant que
c'est ça que je pénalise Raikkonen dans mon classement.
On y reviendra. Hein, on va passer à la 6ème place. À moins que vous ayez d'autres choses à dire sur la course de Raikkonen.
Non,
moi j'ai envie de lancer une fatwa contre Ben. Je trouve vraiment trahi les supporters de Raikkonen.
Il se renie lui-même.
Ah, mais comme ça on pourra pas dire que je fais le fan de base.
Oui.
Mais ce qui est un peu embêtant sur cette fin de saison, c'est que ça correspond un peu à l'annonce de son départ chez Ferrari, et je vais peut-être me faire des amis, mais on peut quand même légitimement se poser la question de savoir si Kimi Raikkonen est pas un peu démotivé, en tout cas en qualification, qu'il est peut-être plus forcément autant investi, même si on sait que il y a l'explication d'Alan Perman, c'est que c'est le train avant depuis le changement des pneus. Enfin, les pneus ils datent quand même du Grand Prix d'Allemagne-Hongrie, ce changement-là, et il a quand même fait des bons résultats, des bonnes courses. Voilà. Est-ce que c'est pas aussi l'empattement long peut-être qui le pénalise? On sait qu'il en était pas content en Italie. Voilà, faut.
Pourtant, ça a l'air l'empattement long a l'air quand même de doper un peu les performances de la Lotus. Oui. En tout cas, celle de.
Ah Grand. Non, pour Mercedes, c'est tout vient de Renault.
Oui, oui.
Parce que chez Mercedes, tout vient des ingénieurs, hein, c'est bien connu. Je caricature, mais l'idée est là. Mais voilà, donc c'est un peu dommage. Je dis pas que Raikkonen se démobilise, mais voilà, il y a une conjonction qui peut peut-être le laisser à penser et qui peut, pour certains, peut-être décevoir.
Il fait partie de ceux qui attendent 2014, quoi.
Oui, voilà.
Ouais, enfin, je sais pas si quand tu vois les courses qu'il fait en Corée ou en Singapour, on peut vraiment se demander s'il est démotivé ou pas, mais.
Non, mais. Bah,
il faut peut-être. Il a un déficit en qualification, ça, c'est clair.
Mais sur la course, non, mais sur la course, c'est quand même la qualité de la Lotus, c'est quand même la course. J'ai envie de dire, là, pour le coup, c'est quand on fait la remarque sur Vettel, n'importe qui se met dans la Red Bull et il gagne. Dans la Lotus, n'importe qui se met dans la Lotus au départ en dixième est quand même capable de plus ou moins remonter dans le peloton. Je caricature, hein, je tiens à dire.
Surtout quand les circonstances vont un peu dans son sens avec les safety cars et voilà. Le départ en Corée, par exemple.
Là, le problème, c'est surtout les essais et les qualifs où il est aujourd'hui, on retrouve un Kimi dominé. Alors, c'est vrai que faut se rappeler qu'on revient au mélange, enfin, aux structures de 2012, qui avait plutôt bien réussi à Grosjean. Donc, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose autour des pneus, peut-être autour de l'empattement long aussi. Enfin, je pense pas véritablement que Kimi Raikkonen soit très démobilisé. Mais il y a une conjonction qui fait que peut-être que certains vont le penser.
Grosjean élève aussi son niveau de jeu, faut le dire. On y reviendra dessus, mais
ouais, on y reviendra.
Il élève son niveau de jeu, il a aussi davantage des clés. C'est peut-être ça aussi qui.
Oui, ouais, c'est ça.
Raikkonen est un peu moins à l'aise en ce moment. C'est que clairement, au début de saison, ça a d'ailleurs été avoué par Eric Boullier. Raikkonen était numéro 1, Grosjean le numéro 2. Maintenant que Raikkonen s'en va, il y a aussi peut-être. D'ailleurs, on le sait aujourd'hui, l'attention de l'équipe est tournée vers Grosjean. Boullier a lui-même dit que Grosjean était en train de devenir le favori de l'équipe. Il a dit ça ce week-end, des déclarations moi qui m'ont d'une franchise qui m'épate toujours. Donc voilà, il y a aussi ça. Peut-être qu'il n'y a plus le traitement entre guillemets de faveur naturel qu'on avait accordé à Kimi Raikkonen et que là on favorise davantage Grosjean dans les réglages ou ce genre de choses.
C'est ça le vrai French laisser faire.
On se concentre plus sur le français maintenant que Raikkonen, c'est plus l'avenir. Grosjean, il sera là en 2014. Je pense qu'il justifie son baquet pour l'an prochain. Donc c'est logique aussi que l'écurie.
Oui, apparemment, il y a plus que l'accord du conseil d'administration de Lotus.
Ouais, c'est ça. Il faut juste que l'encre sèche un peu, quoi. Mais ça, je pense que Grosjean va passer un hiver nettement plus serein que celui de l'an dernier.
Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et tout ça, n'a pas aidé au début de saison. Et je reste persuadé qu'on n'a pas vu du tout la vraie valeur de Grosjean. Au moins jusqu'en Allemagne à Bahreïn, oui, parce que
il arrive aussi, je crois que c'est à ce Grand Prix là qu'il résout les problèmes de frein qu'il avait au début d'année où
il trouve un truc
où il trouve le truc.
On vous renvoie où il savait du Grand Prix de Bahreïn, hein. Donc on passe à la 6e place avec 916 points, je l'ai mis 7e, Fab l'a mis 5e, Ben l'a mis 4e et Dino l'a mis 7e également. C'est un pilote mexicain et c'est un pilote sober, c'est Esteban Gutiérrez. Donc c'est premier point, me semble-t-il.
Ouais, moi j'ai mal marqué le coup.
Oui, c'est vrai, 4e, alors pourquoi?
Non, mais c'est d'abord parce que c'est effectivement ses premiers points et parce que c'est vrai qu'on a beaucoup beaucoup tapé dessus en début de saison. Que moi je tenais quand même à tempérer en disant que c'était pas forcément évident parce que la Sauber était pas une bonne voiture et que maintenant que la Sauber s'améliore quand même, il hausse aussi un peu son niveau de jeu. Il est pas encore au niveau d'Hülkenberg, même si en qualification en Corée il est juste derrière, je pense. Je sais plus ce qu'il fait à Singapour, mais enfin bref. Donc voilà, ici il est un peu moins bien en qualif, il profite un peu des incidents au départ, mais il fait sa course et derrière il marque ses premiers points, il est derrière Hülkenberg. Donc,
en Corée, si je ne m'abuse, il se qualifie devant même
Hülkenberg.
Oui, il passe en Q3 et pas Hülkenberg.
C'est possible, de fait. Et alors, c'est un Singapour qui était pas loin derrière.
Alors, je confonds, oui. Peut-être à Singapour, je sais plus.
Donc voilà, en tout cas, il reprend des couleurs lui aussi.
Il confirme bien que pour le moment, même s'il faut accorder une grande partie du crédit à Hülkenberg, c'est pas uniquement Hülkenberg qui fait son succès en ce moment, c'est aussi la voiture, retirer tout le mérite aussi à Gutiérrez pour ce qu'il a fait ce week-end, il a fait un très bon week-end, mais c'est vraiment la confirmation que cette Sauber, ils ont fait des changements et qu'elle a retrouvé, peut-être pas son niveau de l'année dernière, mais elle a retrouvé un très très bon niveau et que ça reste malgré tout une option sérieuse, un bon baquet pour l'année prochaine, parce que mine de rien, techniquement, même sans argent, techniquement, ils arrivent à développer quelque chose qui marche bien. Ils tiennent la longueur sur la saison, même si je pense que c'est peut-être la seule équipe qui continue de développer un peu sa voiture. Mais voilà, ça
peut-être
ça
pas de la développer, que, mais peut-être pas de la développer, mais du coup, comme ils ont été dans les premiers à justement arrêter le développement, à plus apporter, ils ont apporté un package après la pause, il me semble, pour Spa ou même en Hongrie avant. Mais après, ils l'ont plus forcément développé. Ils ont eu le temps, Monaco, de travailler sur les réglages et évidemment le changement de pneus a aidé. Donc peut-être que comme ils se sont concentrés sur les réglages, ils ont trouvé les bons réglages de la voiture.
À noter, on en reparlera un peu plus tard, on vous fera le classement plus tard, mais à noter quand même qu'ils engrangent 14 points tous les deux. Oui. C'est ce qu'on disait lors de la dernière émission avec Alex Manner, c'est que si Gutiérrez commence à marquer des points, Force India est pas si loin, et ils sont revenus à 17 points de Force India, avec 4 grands prix qui restent à disputer, le match commence à être très intéressant.
Oui.
Oui, on arrive.
Ils sont revenus à hauteur de Toro Rosso aussi. Hein.
Ils ont dépassé.
Ils étaient à égalité.
Ils ont maintenant 14 points d'avance sur Toro Rosso.
Et ils ont repris 14 points, ouais.
Comme quoi, des fois, ça va vite hein, quand même. Enfin, c'est surtout grâce à la fin de saison un peu resserrée, mais ça peut... rien n'est jamais joué. Parce qu'on commençait à les enterrer un petit peu, en plus avec les problèmes financiers, les rumeurs de problèmes financiers. Ben. On passe à la cinquième place, et a marqué 1189 points. Je l'ai mis quatrième, Fab l'a mis septième, Ben l'a mis cinquième, et Dino également cinquième. C'est l'autre pilote Ferrari, c'est un Iber, c'est Fernando Alonso.
Et il a dépassé Hülkenberg, c'est bien.
Voilà.
Et il a fini quatrième, c'est bien aussi.
Ouais.
Une course à la Rosberg, vous trouvez pas ?
Bah, il fait ce qu'il peut avec la voiture qu'il a, quoi. Voilà.
Oui, et puis on l'a pas beaucoup vu, faut dire.
Il est quand même particulièrement mauvais en qualification. Parce que on a quand même à un moment donné une conversation radio où Ferrari lui dit qu'ils peuvent peut-être jouer la pole. Bon, là on pense que Ferrari est très optimiste, même si Ferrari était plutôt en jambes en qualification. Mais en qualification il est nulle part quoi. Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir un Fernando démotivé. Et même si je peux le comprendre, j'ai quand même du mal à l'accepter parce que c'est un battant et il faut qu'il continue de se battre. Il ne faut pas qu'il se démobilise. Je trouve que ce n'est pas bon signe non plus pour l'année prochaine pour lui que de se démobiliser comme ça.
Bah, c'est-à-dire que je suis assez d'accord. Quoi. Moi, je l'ai mis donc 7e. Je n'ai pas trouvé sa course formidable. En la revoyant, il y a même quelque chose qui m'a sauté aux yeux. C'est le fait qu'il avait vraiment... Il s'était pris vraiment sur le premier relais. Et après l'arrêt au stand, il s'était pris autour de 2-3 secondes dans la vue de la part de Massa. Et ça a été comblé en partie parce que encore une fois devant Massa il y avait Ricciardo et Hülkenberg et qu'il était pas possible pour lui de passer et ça comme Raikkonen ça a beaucoup aidé sa course mais ensuite il dépasse une Sauber à la fin qui était visiblement quand même en difficulté sur les gommes mais effectivement, il y a ce côté blasé, ce côté vraiment pessimiste. Mais en plus, dans toutes ses déclarations, c'est quand même assez incroyable.
Même dans le fait qu'il gueule pas du non-respect de consigne de Massa.
Tout à fait.
Ça devrait l'énerver. Ne serait-ce que dans la communication, on devrait le sentir sec s'il se battait encore. Mais là, non, ça me dérange pas. Ça se trouve, ils vont encore faire des louanges à Massa la semaine prochaine.
Non, mais c'est vrai qu'entre Ferrari et Alonso, il y a clairement un truc qui avait et qui a plus, quoi.
Vous pensez que c'est acté sur 2015?
Ils se poussent plus mutuellement. Il y avait quelque chose de cet ordre-là avant. Pour 2015,
moi, je pense que... vous, la tendance, c'est Alonso chez McLaren?
C'est dur à dire, mais.
Je pense que 2014 va être
Honda va faire beaucoup de choses pour essayer de former un duo Alonso-Button, je pense, effectivement.
Ouais, mais ça, moi je pense que si Alonso fout une branlée à Raikkonen l'an prochain et que la Ferrari est bonne, peut-être qu'Alonso aura envie de rester, mais je pense pas que ça va se passer comme ça.
Alonso, il peut attendre. Il peut attendre de voir comment il marchait. Moi, je pense que pour le moment, il attend de voir comment ça évolue. Il y a McLaren qui est la cible. On sait que Honda veut, c'est officiel maintenant, ils veulent Alonso. Ils veulent en tout cas de gros pilotes. Le contrat de Button est visiblement signé, en passe d'être signé. Il est sur la table en tout cas. Après, même au-delà de ça, j'ai envie de dire, même si Alonso ne va pas chez McLaren, si vraiment Honda a l'intention de prendre un gros pilote, on peut très bien imaginer qu'ils aient allez chercher par exemple, même si c'est pas le même calibre, un Rosberg chez Mercedes, et il y a une place qui se libère chez Mercedes. Donc je pense que Alonso pour le moment il attend de voir ses options, il attend de voir aussi la hiérarchie l'année prochaine. Il discute pas trop, il sait très bien que c'est pas un pilote qui se retrouvera sans volant. Voilà, c'est sans doute le seul aujourd'hui qui est vraiment sûr, certain que il y aura toujours quelqu'un pour l'accueillir. Voilà, maintenant je pense que oui, il faut se préparer, en tout cas les fans de Ferrari, il faut qu'ils se préparent à ce que Alonso quitte l'équipe. Moi en tout cas, je m'y prépare.
Je pense qu'avec McLaren, il y a un intérêt, à mon avis, quand même mutuel. Ils vont se regarder de temps en temps.
On voit les ronds de jambes que fait Domenicali par rapport à Vettel. Encore ce week-end, il y a des déclarations sur Vettel. Voilà, on voit bien que aussi, on parle d'Alonso dans d'autres équipes. Ferrari laisse aussi la porte ouverte. Donc, on sent vraiment qu'il y a quelque chose de cassé. Et en tout cas, que le contrat de Fernando Alonso, on disait Fernando Alonso s'est verrouillé jusqu'en 2016. Il y a des possibilités. Voilà.
Il y a toujours des clauses de sortie. Hein.
Voilà, il y a des clauses de sortie, mais je pense aussi que les deux équipes, Ferrari aussi, ils savent très bien qu'ils pourront avoir un autre pilote derrière et voilà, ils l'ont fait avec Raikkonen. S'ils doivent perdre Alonso, ils perdront Alonso, ils iront chercher quelqu'un d'autre.
De toute façon, avec Vettel, même pour après 2015, parce qu'à mon avis, Raikkonen, il va faire ses deux ans et après, il s'en va. Hein.
Oui.
Je pense pas qu'il va faire de Raikkonen. Donc même pour 2016, ils peuvent viser Vettel. Hein.
Vettel, il a un contrat avec option jusqu'en 2016, je crois, inclus, mais la dernière année est en option. Donc,
oui,
voilà,
bah oui.
Même après, il y a Rosberg aussi, il y a Button, le contrat est toujours pour le moment que en option. On peut aussi imaginer une arrivée de Button, ce qui serait pas non plus dégueulasse chez Ferrari.
C'est très ouvert, du coup.
De toute façon, Ferrari,
je pense que le marché 2015 va être extrêmement intéressant à suivre. Justement parce qu'il y a Honda qui arrive et que Honda veut du lourd. Et que pour le moment, McLaren, ils ont pas du lourd. On veut se battre dès la première saison. On veut se battre dès 2015. Ils visent le titre dès 2015. Donc pour ça, il faudra des top pilotes. Ils peuvent pas, même si Perez est pas forcément mauvais chez McLaren, mais ils peuvent pas miser sur Perez aujourd'hui. Parce que Perez, il est encore qu'à sa troisième saison. Il aura que 5 saisons dans les jambes en 2015. Donc voilà. Et pour le moment, en termes de développement, on peut pas dire qu'il ait apporté quoi que ce soit. S'ils veulent se battre,
apparemment, il a pas la réputation d'avoir un très bon feedback technique. Apparemment, Perez. Donc, c'est aussi pour ça que ça coince pour l'annonce de son renouvellement chez McLaren. C'est que techniquement, il est quand même pas. Ce serait loin d'être un fou de guerre, quoi. Mais oui, Honda, de toute façon, ils veulent frapper fort. L'engagement de Prodromou est clairement dans cet ordre-là. Donc, clairement, au niveau des pilotes, ils vont aussi essayer d'avoir du lourd. Button, il fait partie de la liste, hein, et je pense qu'ils ont gardé un bon souvenir de lui, même si les résultats en piste n'étaient pas, mémorables.
Ouais, mais avec la voiture qu'ils ont produite pour la saison 2009...
je parle pas forcément des qualités, je mets pas en question les qualités du pilote.
Ouais, mais c'est justement ça. Moi ce que je pense, c'est que Alonso chez McLaren Honda, il y a quelque chose de dans les volontés, il y a quelque chose de l'ordre de l'inachevé à la fois du côté d'Alonso, parce que son passage chez McLaren, c'est quand même même si c'est un échec relatif, on est d'accord, c'est quand même un des grands échecs de sa carrière. Ça a ralenti sa carrière qui était à ce moment-là vraiment sur une lancée très impressionnante. Et du côté de Honda, parce qu'on a quitté la F1 fin 2008, et que c'est grâce à une voiture qui avait été complètement construite par l'équipe qu'on a été champion du monde en 2009. Il y a quelque chose dans les volontés, je pense qu'il y a tout ça qui rentre en compte aussi. Il y a ce côté échec du côté d'Alonso chez
l'esprit de revanche, quoi.
Oui, c'est ça, l'esprit de revanche des deux côtés, quoi. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, effectivement, Honda va tout faire, et s'entend l'odeur du sang, c'est-à-dire la discorde un petit peu chez Ferrari avec Alonso, va jouer très finement sur cette partition-là. Arriver en 2015 et annoncer Alonso au volant d'une voiture motorisée par Honda, enfin c'est quand même à peu près le mieux que tu peux faire, quoi.
Oui, puis Alonso, il a aussi ce côté un Alonso motivé, qui n'est peut-être plus le cas ici en fin de saison. C'est un Alonso qui lâche rien, qui va tirer le maximum du matériel qu'il a à sa disposition. C'est le genre de caractère un peu samouraï qui doit énormément plaire aux gens de chez Honda. Donc,
on passe à la quatrième place. Ne vous inquiétez pas, hein, on arrivera à la fin à un moment ou à un autre. Avec 1375 points, hein, je rappelle que le vainqueur a 2578 points, donc on est encore assez loin.
Il y a un gap.
Oui, il y a un petit gap. Je l'ai mis cinquième, Fab tu l'as mis quatrième, Ben l'a mis troisième et Dino l'a mis quatrième. C'est Nico Hülkenberg.
Mais je veux le voir chez Lotus l'an prochain. Bon, alors, je sais, Dino va me dire, il y a plein de reconnus chez Lotus. C'est vrai.
À Lotus aussi.
Mais en partant du principe qu'ils restent à leur niveau de performance, je veux le voir dans une bonne bagnole. Merde.
Son dépassement sur Ricciardo dans le 130R,
ouais. Voilà, c'est, il est aussi
autoritaire, il est
de Raikkonen, quoi.
Est, voilà.
Il le prend à l'intérieur, magnifique, quoi.
C'est peut-être un peu l'effet inverse, justement, de Raikkonen et d'Alonso. Il retrouve une voiture performante, ce qui fait que moi, personnellement, je l'ai mis pas très haut, je l'ai mis cinquième, parce que je prends en compte que la voiture progresse et que finalement, c'est pas un one shot, quoi. Ça fait 3-4 courses que la voiture est bonne.
Son résultat, c'est l'effet inverse d'Alonso.
Oui, c'est vrai que
sixième juste devant Gutiérrez, c'est limite décevant.
Voilà.
C'est dire à quel point on est devenu exigeant avec Sauber et avec Hülkenberg. Voilà, il est sixième devant son coéquipier, c'est limite décevant.
Et donc c'est l'inverse. Lui voit la carotte un peu d'un baquet plus performant, alors que ce soit chez Lotus ou peut-être même chez McLaren, hein, pourquoi pas. Parce que Pérez n'est pas forcément en odeur de sainteté.
C'est vrai, c'est vrai.
Alors qu'Alonso et Raikkonen sont pas dans des dispositions... Enfin, ils ne sont pas mis eux-mêmes dans des dispositions de faire de bonnes courses, a priori.
Mais c'est là où on voit aussi le confort de certains pilotes. Et voilà, on a des pilotes, on parle d'Alonso Raikkonen, c'est des pilotes qui sont sûrs de leur avenir. Là, on parle d'Hülkenberg, c'est un mec qui n'est même pas sûr d'être sur les grilles de départ l'année prochaine parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Bon, apparemment, il semblerait que son avenir soit plus ou moins assuré maintenant. Mais voilà, il y a la volonté de se battre. On est quand même face à des Alonso et des Raikkonen, même si Raikkonen, encore une fois, je sais pas s'il est vraiment démotivé. Alonso, je pense que là, sur cette fin de saison, il est démotivé. On est face quand même à des problèmes de riches, quoi. Enfin, c'est des mecs qui se disent, voilà, je me bats pas pour le titre, bon bah je roule tranquille, je suis plus à 100%. Lui, il est obligé d'être à 100% parce que il y a ce contexte économique, et c'est ce qui prouve que c'est quand même important pour un pilote de commencer dans ces équipes-là. C'est quand même c'est terrible parce que c'est l'école par la difficulté, mais mine de rien d'être dans la difficulté, et c'est ce qui est louable dans le comportement de Lotus, notamment par rapport à Grosjean qui le laisse un petit peu aussi, qui est très exigeant envers lui. C'est être élevé à la dure, et c'est extrêmement formateur, et c'est se battre jusqu'au bout, c'est ce tempérament de battre qui est en train dont est en train de faire preuve Hülkenberg.
C'est peut-être lui le vrai samouraï.
Troisième fois de suite. Oui. Bon, après, comme tu l'as dit, voilà, il y a la voiture. C'est vrai que c'est quand même un Grand Prix où on n'attendait pas forcément non plus la Sauber. Voilà. Même si on l'avait dit en Corée qu'ils avaient été bons dans la ligne droite, mais ils avaient aussi été très bons dans la partie sinueuse des secteurs 2 ou 3. Donc on pouvait penser quand même que la Sauber se débrouillerait pas trop mal à Suzuka.
Oui, parce que voilà, dans le Fantasy F1, je crois qu'il y a eu 7 ou 8 personnes qui ont fait des transferts. Ils ont tous mis Hülkenberg, quoi.
Ouais.
Mais les bonnes pioches sont très avisées. Non, mais pour revenir sur sa course, il a lui aussi subi malheureusement le bouchon Ricciardo, ce qui a quand même coûté cher, hein, à beaucoup de pilotes qui étaient derrière lui. D'abord parce que tu flingues tes pneus. D'ailleurs, en fin de course, je pense qu'il s'attendait peut-être à un relais plus long. Le deuxième relais, sans doute, devait être plus long. Parce que en fin de course, il a quand même bien souffert, ce qui explique notamment qu'il se soit fait déposer par Alonso puis Raikkonen. Mais c'est vrai que c'est quand même...
Oh, ça faisait longtemps.
C'est une belle phrase, c'est quand même. Allô Fab.
Oh, bah, on n'aura pas la fin de la phrase de Fab. Par défaut d'entendre Fab, passons à la troisième position. Avec 1896 points, je l'ai mis troisième. Fab l'a mis troisième. Ben l'a mis sixième. Et Dino l'a mis troisième. C'est Marc Weber. Ben sixième quand même.
Ouais, bah très belle pole, hein, ça on va pas lui enlever. Oui. Après, bah départ moyen, mais bon, les deux Red Bull ont fait un départ moyen. Mais surtout, c'est... Alors, je veux bien qu'on peut penser, effectivement, que Red Bull a un peu joué le jeu de Vettel avec une stratégie, un changement de stratégie passant de 2 à 3 arrêts. Mais n'empêche qu'en début de course, son ingénieur lui demande quand même de réduire, de laisser un peu de gap par rapport à Grosjean. J'ai pas l'impression qu'il en laisse suffisamment. Et je pense que c'est là aussi qu'on décide de changer de stratégie, parce que je pense qu'il tue ses pneus un peu plus vite que prévu. Et puis, fin de course, avec les médiums, il met une plombe à passer Grosjean, alors que quand tu vois Vettel, une fois, hop, on n'en parle plus. Bon, bah voilà, quoi.
C'est ça qui est.
Mais c'est, voilà, c'est
fou avec Weber, c'est qui font la comparaison avec Vettel.
Mais oui, bah alors, moi, voilà, de nouveau, on peut penser stratégie, etc., mais n'empêche qu'un Grosjean avec ses pneus durs en fin de course, Weber avec sa Red Bull, avec des pneus médiums neufs, il doit l'avaler, quoi. Enfin, il met une plombe, alors que Vettel, il l'a essayé une fois, c'est tout. Grosjean a essayé de défendre juste ce qu'il fallait, hein. Il a pas non plus essayé de le mettre dans le mur, ce qui aurait été con. Mais voilà, il y a un petit, il fait un petit mouvement, Grosjean sur Vettel, Vettel, il laisse la place, Vettel la trouve, il passe Weber, il reste derrière.
Oui, et puis là, on peut pas dire que Weber soit dans la démotivation, parce que là, il avait vraiment une opportunité de faire un bon résultat, contrairement
là,
peut-être
à plusieurs
courses précédentes.
Là, il avait une belle occasion, une victoire sur, à Suzuka, ça restait une belle victoire, quoi. Lui qui a gagné à Monaco, à Silverstone, il y avait une histoire aussi à Suzuka. Il y avait
un... On a un truc, c'est justement ça que j'allais faire référence. On a aussi un truc avec Weber, c'est qu'on a souvent eu l'impression, notamment ces dernières années, qu'il y avait que entre guillemets les vrais circuits de pilotes qui le motivaient, et ses victoires en témoignent, que ses performances en témoignent. Il y a vraiment que sur les grands classiques du calendrier qui rivalisent avec Vettel, comme si c'était une, je sais pas, soit il est meilleur pilote dans ces conditions-là, donc un pilote un peu plus à l'ancienne peut-être, soit c'est une sorte de motivation pour lui.
Après, une prédisposition pour les virages rapides peut-être.
Sans doute, voilà, il faut pas réfléchir et aller vite peut-être, je sais pas. Après sur la stratégie, d'abord c'est lassant que à chaque fois on mette en cause la stratégie. Surtout que on juge la stratégie aussi facilement et superficiellement, sans véritablement regarder ce qu'est la course. On a quand même deux Red Bull qui sont en première ligne, qui sont dominatrices depuis quelques Grands Prix, et qui donc légitimement postulent à un doublé. Il se trouve que ces deux Red Bull, scénario extrêmement improbable, qui arrive généralement très peu, les deux se foirent au départ. Ils se retrouvent menacés par Weber, par Hamilton et par Grosjean. Grosjean part en tête de la course. Et c'est un paramètre qu'on est obligé de garder en tête pour analyser les stratégies et pour savoir si effectivement Red Bull a favorisé Vettel ou pas. Parce qu'il ne s'agit pas de dire est-ce que Red Bull a favorisé Vettel, il s'agit de dire est-ce qu'il n'y a pas une autre explication possible. Moi je veux bien qu'on me dise que Red Bull favorise Vettel. Ok. De toute façon, ça sera très difficile d'apporter des preuves. Maintenant, moi je me base toujours sur le fait qu'il y a peut-être une autre réponse, il y a peut-être une autre solution. Là, le fait c'est qu'on est, on l'a dit tout à l'heure, on est une équipe, on est deux contre un. On est deux pilotes Red Bull contre un pilote Lotus, et un pilote Lotus qui est quand même une véritable menace en tête de la course, parce que les Lotus sont très fortes, notamment sur les longs relais, que Grosjean est quand même très costaud en ce moment. Donc il y a la nécessité de la part des deux équipes, de la part de Red Bull, de mettre en place une stratégie, et la stratégie elle apparaît très vite. C'est qu'on a un Weber qui va attaquer Grosjean, là où on a un Vettel qui va se mettre un peu en retrait et être plus dans une stratégie d'attente. Alors je sais pas si c'est à ce moment là qu'il décide de basculer sur trois arrêts, mais comme le premier relais est intéressant, j'ai les écarts sous les yeux. Et je crois qu'on a définitivement perdu Fab. On a les écarts devant, j'ai les écarts. Au premier tour, on a donc Weber qui est à 6 dixièmes. Il va être à 6 dixièmes au deuxième tour, 8 dixièmes au troisième tour. Et puis après, je continue. Une seconde, 8 dixièmes, une seconde. Et c'est seulement au septième tour qu'il commence à lever un peu le pied. Une seconde 4, puis une seconde 7, 2 secondes 1, 2 secondes 5. Et il rentre au stand au dixième tour.
On lui demande un gap de 2 secondes. Hein.
Voilà. Donc c'est vraiment sur le début, il va attaquer Grosjean pour voir si ça passe. Et alors après, est-ce que c'est parce qu'il bouffe ses pneus ou est-ce que c'est parce que il commence enfin à entendre les consignes et à prendre un peu raison, il recule un peu et il se met dans le traditionnel depuis quelques années, c'est la bulle des deux secondes où tu préserves un peu tes pneus. Vettel, il fait ça dès le départ. Il est à 1 seconde 3 de Grosjean, donc il est à 6 dixièmes au bout du premier tour de son coéquipier. Après, il va très vite descendre. Il est à 1 seconde 7, 2 secondes 3, 2 secondes 5, 2 secondes 4, 3 secondes 3, 3 secondes 3, 3 secondes 2, 4 secondes, 4 secondes 1. Donc en fait, il va se mettre à 1 seconde à peu près, 1 seconde et demie de Weber, et il va glisser encore un peu plus quand Weber va commencer à lever le pied. Il va glisser un peu plus et se mettre à 2 secondes. Voilà. Donc, il commence déjà à travailler un relais un peu plus long. Donc, déjà, c'est ce qu'a dit Christian Horner. C'est déjà à ce moment-là que Weber est en train de perdre la course contre Vettel, puisqu'il est en train de se mettre sur une stratégie à 3 arrêts, tout simplement en bouffant ses pneus et en s'arrêtant. On le voit à la fin du premier relais, 4 tours avant Vettel.
Est-ce après, que plus que Weber, c'est pas son équipe, donc soit c'est Ciarán Pilvim, hein, son ingénieur de course, ouais, qui est plus à blâmer pour ne pas l'avoir prévenu trop tôt de laisser un gap. Mais parce que chez Vettel, moi j'ai souvenir que Vettel, on lui dit très rapidement, Guillaume Roquelin lui dit très rapidement, bon, laisse courir, mets-toi un matelas et attends que ça passe, quoi.
Ouais, mais Weber, on le prévient tôt aussi, moi je trouve, hein. Enfin, j'ai pas le souvenir des tours, mais moi j'ai le sentiment que Weber, on le prévient quand même assez tôt aussi de laisser un gap et qu'on lui redit.
Mais c'est encore
parce qu'il le tempère pas.
il faut regarder aussi, c'est la stratégie globale de la course, c'est que l'objectif de Red Bull, c'est de gagner la course. Ils ne peuvent pas laisser leurs deux voitures sur une stratégie à deux arrêts et faire une course d'attente où on a Weber et Vettel qui seraient chacun à deux secondes l'un de l'autre, et Weber à deux secondes de Grosjean, et puis Vettel à deux secondes de... C'est pas possible, parce que à un moment donné, tu sais qu'avec les qualités de la Lotus, tu vas devoir le dépasser. Si tu fais pas, si tu ne l'attaques pas, ça va jouer dans la stratégie, et la Lotus, on sait qu'elle peut faire deux arrêts. Donc si tu restes sur des arrêts, tu sais que t'es pas garanti de gagner la course. Donc à ce moment-là, je pense sincèrement qu'il y a peut-être la consigne qui passe auprès de Weber de ménager ses pneus, mais je pense qu'ils sont aussi obligés dès le départ d'en mettre un qui va attaquer Grosjean et d'en mettre un deuxième qui va être dans une position d'attente. Ça va se voir d'ailleurs dans le deuxième relais. Dans le deuxième relais, Weber fait l'undercut. C'est vrai que je crois que le deuxième relais de Weber, il fait 14 tours. Celui de Vettel fait 23 tours. Ils sont sur les mêmes pneumatiques, même s'il y a un léger décalage de 4 tours. Ils sont sur le même train de pneus. Il n'y a pas de raison que Weber s'arrête, si mes calculs sont bons, 9 tours avant son coéquipier. La seule raison, et d'ailleurs ça se voit dans les temps, la seule raison, c'est qu'il veut faire l'undercut, c'est-à-dire qu'il veut profiter de son arrêt pour avoir des pneus un peu plus frais, gagner du temps ensuite derrière sur son troisième relais pour passer à la faveur des stratégies, passer devant Grosjean. Et ça se voit dans les écarts encore. On a un Weber sur son deuxième relais qui, là, pour le coup, va rester à 2 secondes. Et puis, au bout d'une dizaine de tours qu'il est à 2 secondes de Grosjean, il va mettre quasiment 6 dixièmes de seconde autour à Grosjean pour revenir à, je crois, c'est 6 ou 7 dixièmes au moment de rentrer au stand. Donc on a vraiment quelqu'un qui, à un moment donné, il faut faire un choix, il pousse, il met la 7e, quoi, et il va essayer de faire l'undercut. Et c'est d'ailleurs ce qui a été dit dans les commentaires pendant la course, c'est que voilà, c'était cette stratégie-là. Et là, vraiment, on est sur cette stratégie de 3 arrêts. Effectivement, on pourrait imaginer, par exemple, qu'on dise plutôt à Vettel de se mettre en 3 arrêts et Weber de le laisser en 2 arrêts. Le problème, c'est que il faut tenir compte dans ce cas-là des positions en course. On a un Weber qui est deuxième, on a un Vettel qui est troisième. Si vous demandez à Vettel de s'arrêter plus tôt pour faire 3 arrêts, ce qui est d'abord complètement incohérent par rapport au premier relais, si vous demandez à Vettel de s'arrêter pour faire 3 arrêts, c'est-à-dire que Vettel, à ce moment-là, il est à 4 secondes de la tête de course. Donc vous allez le faire s'arrêter, il va devoir récupérer 4 secondes. Là où si vous demandez à Weber de faire ça, lui il est à 2 secondes de la tête de course. Il a plus que 2 secondes à faire comme différence. Donc c'est logique qu'on mette Weber sur une stratégie à 3 arrêts.
Ce qui est moins contrable en plus, enfin, Lotus peut pas forcément faire rentrer Grosjean pour contrer la stratégie, parce que c'est aussi eux de passer en 3 arrêts également.
Et c'est ça, se voit, c'est ce qu'on disait au début, c'est la stratégie des Velociraptors, quoi. C'est là où Red Bull a très bien joué le jeu, et moi ça me rappelle un peu le Grand Prix d'Abu Dhabi 2010 qui sacre Vettel. C'est que on te montre un mec, on te force, en fait on a forcé Grosjean à se positionner, même d'ailleurs dans le deuxième arrêt Grosjean il sait plus trop sur quel pied danser. Est-ce qu'il suit Weber? Est-ce qu'il essaye de prolonger par rapport à Vettel?
Enfin, ouais, non.
L'arrêt même, de tout le monde le dit, il s'arrête soit trop tôt, soit trop tard. Ils sont perdus à ce moment-là. Ils sont obligés de choisir. Et c'est là où Red Bull a bien joué. Et c'est là où je pense que c'est véritablement une stratégie d'équipe. Après, c'est effectivement à la faveur de Vettel. Maintenant, c'est à la faveur de Vettel parce que Vettel est troisième. Parce qu'il est derrière son coéquipier et que c'est entre guillemets lui naturellement qui doit se retrouver sur la stratégie d'attente. Et Weber qui doit attaquer. D'abord parce que Weber est le pilote qui consomme un peu plus ses pneus, que Weber a été le plus rapide aussi. Faut aussi rajouter la donnée que mettre Vettel en 3 arrêts, c'est le faire chausser des pneus médiums, avec lesquels il a très peu roulé, parce que notamment les essais libres 3, il a quasiment pas roulé. Donc la logique veut sur ce week-end qu'on donne la stratégie à 3 arrêts à Weber et la 2 arrêts à Vettel, et on est obligé de faire deux stratégies différentes pour forcer Grosjean et Lotus à se positionner. C'est pour ça que je peux pas blâmer l'écurie Lotus pour leur option stratégique, parce que il fallait bien à un moment donné qu'ils choisissent, et dès le départ, et c'est Grosjean qui dit dès le départ on s'arrête 2 tours avant la cible qui était prévue, il s'arrête au 11e tour au lieu du 13e tour, donc déjà il se positionne sur Weber. À un moment donné, il faut que tu te positionnes, et peut-être l'erreur de Lotus ça a été de soit se positionner sur le mauvais lièvre, en tout cas à un moment donné de se dire bon bah voilà, Vettel il part sur 2 arrêts, il fallait peut-être rester positionné sur Weber et assurer la 2e place. C'est bête, mais jouer la 2e place, surtout que derrière ils disent on pouvait pas faire mieux. J'anticipe un peu sur ce que dit Grosjean, mais voilà. Donc la stratégie, elle est, pour moi, la stratégie de Red Bull, elle est brillante, quoi. Elle est absolument brillante. Je voulais mettre Vettel premier, mais je voulais pas mettre Weber deuxième parce que je voulais quand même saluer la course de Grosjean. C'est pour ça que je mets les deux Red Bull deuxième et troisième. Mais la stratégie d'équipe, elle est brillante, quoi. Enfin, c'est la première fois que j'analyse autant une stratégie. Je remercie d'ailleurs un follower, Gary, qui m'a forcé un peu à fourbir mes arguments. Mais la stratégie, quand on l'analyse, elle est juste exceptionnelle, quoi. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre de stratégie rondement mené par les deux pilotes, même si c'est dommage qu'à qu'à la fin on ait un Weber qui vient dire j'aurais pu faire deux arrêts. Oui, il aurait pu, mais c'était pas dans l'intérêt de l'équipe, et au final il fait quand même deuxième, ce qui était pas garanti en faisant une stratégie à deux arrêts.
C'est aussi parce qu'il râle à la fin de la course que je l'ai mis un peu plus bas aussi, parce que voilà, il râle parce qu'on lui fout une stratégie à trois arrêts, mais en même temps, le premier relais, il obtempère pas tout de suite dans ce qu'on lui dit. Donc peut-être que s'il avait mieux suivi, on l'aurait pas switché de la même façon. Enfin, avec des si, on peut changer le truc, mais il reste qu'effectivement, c'était bien joué de Red Bull qui a forcé effectivement Lotus à choisir, quoi.
Et c'est vrai que chez Weber, c'est pénible, ça. Enfin, moi, je veux bien qu'on prenne en compte les paroles de Weber. Ça pose des questions. Maintenant, j'ai toujours dit de Weber, s'il n'est pas capable d'apporter des preuves, qu'il se taise, qu'il arrête de dire, d'avoir des déclarations qui vont à l'encontre de son équipe. C'est peut-être aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, Red Bull préfère voir Vettel gagner. C'est que, mine de rien, depuis 3-4 ans, Weber, quand il en a l'occasion, il humilie Red Bull. Le coup du pas mal pour un numéro 2 à Silverstone en 2011 et compagnie, il sait très bien que ça va être entendu. Il sait très bien que ça va faire polémique, et donc il met son équipe dans l'embarras. Une équipe, elle aime pas être mise dans l'embarras, et on peut se dire aussi qu'à un moment donné, si la balance a penché en faveur de Vettel, c'est bien évidemment que c'est le produit maison, il s'agit pas de contester, mais c'est peut-être aussi parce que lui, il a su rester dans les clous, il a su caresser l'équipe. Là aussi, les politiques, quand ils caressent le taureau Red Bull sur sa voiture à chaque fois qu'il gagne et compagnie, là aussi il y a un message politique, et on sait que dans une équipe, c'est toujours bien de flatter un peu l'équipe, de se la mettre dans la poche. C'est ce qu'a fait Alonso aussi, ce qu'il a fini par faire, même si au début c'était un peu compliqué. C'est toujours bien de marcher à l'affectif avec l'équipe, ce que Weber n'a jamais réussi à faire.
Pour clarifier tes propos, quand tu dis que Red Bull préfère que Vettel gagne par rapport à Weber, tu dis ça bien sûr sans sous-entendre qu'il y ait de consignes, on est bien d'accord.
Mais, parce que voilà, c'est-à-dire que systématiquement, dès qu'on préfère, automatiquement c'est que l'équipe elle a des consignes ou elle veut favoriser. On peut préférer que quelqu'un gagne. Maintenant, je crois qu'à chaque fois qu'il y a eu une victoire de Weber, ils ont célébré la victoire comme il se fallait. Je me rappelle d'un Weber qui saute dans la piscine avec Christian Horner. Donc, enfin, voilà, ils sont contents de toute façon quand ils gagnent. Après, oui.
De la même manière que aujourd'hui, je pense que Lotus préférerait, sans favoriser Grosjean, préférerait que Grosjean gagne.
Mais c'est comme, je vais faire une comparaison. Certains de nos auditeurs sont peut-être des papas, ou certains de nos auditeurs sont peut-être des mamans, ou on a peut-être un petit frère ou compagnie. Quand on aime quelqu'un,
vous aimez un de vos fils plus que.
Non, mais quand on aime quelqu'un, on a envie, on le préfère. Voilà, quand tu vois ton gamin, par exemple, faire une compétition de boxe ou de je sais pas quoi, ou du judo, t'as envie tu le préfères, t'as envie qu'il gagne. Maintenant, t'as pas forcément envie de tout faire pour qu'il gagne, t'as envie aussi qu'il se débrouille tout seul. On peut très bien préférer quelqu'un sans forcément le favoriser. Et c'est ça la différence que beaucoup de gens ont du mal, et que sur Red Bull, même si c'est avéré, et je veux bien l'admettre devant tout le monde publiquement, c'est avéré, on le sait, que Red Bull préfère Vettel. Maintenant, il faut encore prouver que ça se traduit par des consignes, par un exact. Avantage technique qui est donné à Vettel, ce qui n'est pas le cas pour le moment.
Fab, un truc à dire, vu que tu es de retour, a priori
Sur la course de Weber. Oui, pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que vous avez dit. Je sais pas si vous avez dit que même sa place de deuxième est quand même assez miraculeuse, je trouve. Oui. Parce que finalement, sans le train de retardataire, moi, personnellement, je me souviens plus d'avoir vu autant de retardataires, en fait, d'un coup.
Oui, ils étaient 5 devant, hein, je crois.
Ils étaient 5 devant Grosjean. Alors, ce qui est impressionnant, c'est la manière dont Vettel a dû les effacer, parce que on l'a même pas vu. Mais quand on a vu ce train-là, on pouvait se dire que ça jouerait en faveur de Grosjean à partir du moment où il serait pas regroupé. Parce que dès qu'ils sont arrivés sur les retardataires regroupés, bah, forcément, Grosjean a perdu de la vitesse dans la chicane. Notamment, enfin à partir de Spoon, à partir de
mais
Spoon.
Weber se met à l'extérieur. Si tu regardes bien le dépassement de Vettel au niveau de la chicane, il se met à l'extérieur, ce qui oblige Grosjean à vraiment piquer l'intérieur. Du coup, je pense que la Red Bull ressort mieux, et c'est comme ça qu'il passe la ligne droite. Et là où Weber passe, il fait pareil en fait. Il est aussi à l'extérieur. Grosjean doit vraiment rester devant.
Parce qu'à Spoon, Grosjean a dû ralentir à cause de, je crois que c'est une McLaren, il me semble, a dû ralentir à cause de Perez. Donc, il engage moins bien la ligne droite. Weber est beaucoup plus près. Mm-hmm. Dans la chicane, il est très près. Et puis, il finit le travail dans la ligne droite des stands. Mais c'est miraculeux, qu'il sauve cette deuxième place.
Ouais, parce qu'il avait du mal derrière. Hein.
Parce qu'il avait du mal, il était en train de bouffer ses pneus et il était en train de se retrouver dans la même situation qu'au début de course, c'est-à-dire à devoir forcer et contraindre parce qu'il n'a pas pu dépasser Grosjean, bah, à devoir se mettre à distance raisonnable pour éviter de totalement flinguer ses pneus. Évidemment,
c'est ça, quand il faut dire sur les deux courses de Vettel et Weber, c'est que les deux étaient plus ou moins libres de se battre. Il fallait que chacun dépasse Grosjean. Vettel l'a fait. Weber ne l'a fait que sur le tard. Mais dans les deux cas, les pilotes construisent leur course, ils veulent gagner, il faut qu'ils dépassent Grosjean. Et la victoire de Vettel, elle se construit aussi sur le fait qu'il a dépassé assez rapidement Grosjean, là où Weber, il a eu un peu plus de mal, parce que ça s'est fait en fin de course, parce qu'il y avait peut-être du trafic aussi, dont il a peut-être pu souffrir. Avec des pneus aussi peut-être qui se dégradaient plus vite, qui tenaient moins la route. Mais il fallait quand même à un moment de le faire. Et Weber, il a ni réussi à le faire en début de course, ni il réussit à le faire ou vraiment tardivement à la fin, quoi. Donc parce que si Weber dépasse rapidement Grosjean, s'il
a tout le loisir de revenir,
il arrive à réussir son undercut et tout, il peut aller chercher Vettel.
Ouais.
Le truc, c'est que voilà, c'est enfin, même si
il s'en serait pas privé d'ailleurs,
parce qu'il y a,
il aurait pu aller le chercher. Il y a 8 secondes à la fin parce qu'il y a effectivement les retardataires que Vettel les dépasse très bien en passant par Radio FIA aussi en même temps. mais voilà, c'est aussi ça. Il y a toujours cette donnée, Grosjean. On peut pas dire il fallait mettre les deux sur la même stratégie. Oui, mais il y a Grosjean. Si tu retires Grosjean de l'équation, effectivement, l'équation est simple. Mais si tu mets Grosjean dans l'équation, l'équation devient beaucoup plus compliquée. Ben, et Red Bull a été franchement dans leur gestion.
Ce que je me demande, c'est si cette stratégie, c'était pas décidée à l'avance en prenant en compte le fait qu'il y aurait Hamilton dans l'équation. Parce qu'on peut supposer qu'Hamilton aurait peut-être été sur une stratégie agressive à trois arrêts. Qui aurait obligé une des deux Red Bull à faire de même. Et donc finalement, on aurait peut-être sécurisé, en tout cas, on aurait voulu quadriller les deux, parce qu'on savait que Grosjean ne ferait pas une stratégie. D'ailleurs, bon, on y reviendra, mais la stratégie de Grosjean, elle semble, enfin, c'est monolithique, quoi. C'est établi depuis le départ. Il en bouge pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas vraiment de course, d'ailleurs. Hein?
Non, bah, parce que Grosjean dit qu'ils se sont arrêtés sur le premier arrêt. Grosjean dit qu'ils se sont arrêtés deux tours avant la cible. Et après, on sent bien qu'il hésite entre Vettel et Weber. Donc je pense que la stratégie n'est pas si établie que ça.
On en reparlera, messieurs, vous inquiétez pas. Passons donc à la deuxième place, avec 2417 points, donc avec 161 points d'écart avec la première place. C'est quand même assez serré, il y a eu des hésitations. Je l'ai mis premier, Fab, tu l'as mis premier, Ben, deuxième, et Dino, deuxième également. C'est Sébastien Vettel qui est deuxième de notre classement.
Quoi ? Dino ?
Mais je l'ai dit, alors t'étais pas là, mais je l'ai dit parce que moi, c'est la course de Vettel fait une très belle course. Maintenant, c'est vrai qu'en réfléchissant un peu plus sur la stratégie employée par Red Bull, je pense malgré tout qu'il y a avant tout, c'est une très belle course de l'équipe Red Bull, et je n'envisageais pas de mettre Vettel deux places devant Weber. Donc voilà, Grosjean fait aussi une très belle course. J'aurais mis de cœur et de raison, j'aurais mis Vettel premier, mais comme je voulais pas séparer les deux Red Bull et qu'il était hors de question que je mette Grosjean troisième, j'ai mis Grosjean premier et Vettel deuxième.
Non mais alors, c'est vrai que c'était une grosse hésitation, forcément, parce que effectivement, Red Bull, du fait de la performance de Weber, qui est quand même une performance relativement inhabituelle sur toute l'année, d'être à la lutte pour la victoire, a sécurisé cette victoire avec Vettel. Malgré tout, je l'ai laissé premier parce qu'il a joué dans un registre différent de d'habitude. Enfin, en tout cas, peut-être pas dans un registre tout à fait différent, mais en tout cas dans une position différente. Et il a joué au parfait petit gestionnaire, mais dès le début de course. Il prend beaucoup de distance vis-à-vis des deux premiers, vis-à-vis de Weber, très rapidement. Dès le deuxième tour, il a autour de 1,5 secondes, 2 secondes sur Weber. Et ce qui est impressionnant, ce premier relais est déjà impressionnant, mais c'est surtout le deuxième relais. Parce que le deuxième relais, en pneus durs, usés, qui ont sur la fin plus d'une quinzaine de tours, il parvient à laisser Grosjean à distance, c'est-à-dire qu'il perd, je crois, en 6 tours avant qu'il s'arrête, il perd 1 seconde sur Grosjean. C'est-à-dire que Grosjean, 6 tours avant que Vettel s'arrête, est à 20 secondes, et quand il s'arrête, il est à 19 secondes. Et ça, je crois que c'est là qu'il construit la entre guillemets la facilité avec laquelle il va pouvoir s'imposer par la suite. Mais c'est impressionnant de justesse, quoi. Il a été juste, il a fait le boulot qu'il fallait, quoi. C'est ça qui est impressionnant. Et c'est inhabituel en tout cas plus visible. Mais ça le rend plus impressionnant, je trouve.
Oui, parce que dès le début de course, il est dans la peau du chasseur et plus du chassé, ce qui est plus habituel pour lui d'être devant. Et... parce que il y a ce départ et il se retrouve effectivement troisième et il faut changer la façon d'aborder la course. Tout simplement parce que Weber, bah, il a une voiture dont on sait qu'elle est performante. La Lotus, il faut pas la négliger non plus. Et tu sais pas ce que la Lotus va faire. En termes de stratégie, tu sais qu'elle peut faire que deux arrêts. Tu sais que les pneus, elle les gère quand même pas mal. Donc Grosjean est un candidat très sérieux pour la victoire. Et Red Bull le sait. Et il faut faire une... C'est une course tactique, mais c'est comme ça qu'on gagne des courses aussi en Formule 1. C'est pas en attaquant. Surtout aujourd'hui avec les Pirelli, mais... Moi, je voulais pas le mettre premier parce qu'il aurait pu, hein, il le mérite, mais voilà, c'est vrai que je pense qu'il a déjà été souvent premier ces dernières semaines, donc c'est aussi un peu pour ça que j'ai voulu mettre un leader différent. Mais voilà, il y a
pour
pas.
Pour moi, c'est la preuve de ce qu'on avait dit plusieurs SAV auparavant, c'est faire montre que Red Bull dans son ensemble, alors avec Vettel dedans, parce que comme le dit Fab, il faut le pilote pour appliquer la stratégie. C'est vrai que son deuxième relais très très long et sans perdre beaucoup de temps sur Grosjean, et c'est ça qui construit sa victoire, quoi, avec le dépassement rapide sur Grosjean. C'est la preuve que Red Bull plus Vettel, c'est de très très haut niveau, et que les autres doivent tout mettre ensemble, stratégie plus rythme plus usure des pneus plus etc, tout ce qu'il faut, plus un peu de réussite pour les battre, parce que quoi qu'il arrive, quasiment à part la fiabilité, bah ils sont là, quoi. Eh bien, passons à la première place.
Mais donc, qui est en premier?
2000, oui, il n'y a plus beaucoup de suspense à ce niveau de l'émission. Avec les fameuses 2578 points, je vais y arriver. C'est Romain Grosjean. Je l'ai mis deuxième. Fab l'a mis deuxième. Ben l'a mis premier. Et Dino l'a mis premier également.
Voilà, moi, c'est uniquement pour faire plaisir à Lionel Frassard. Comme ça, on va lancer Dino.
Non, j'ai rien à dire, moi, sur Lionel Frassard.
Mais
je très juste à lire les articles avant de les citer, mais
juste un petit bémol, mais c'est même pas sur sa course à lui, c'est sur pas mal de journalistes qui ont pris cette course-là comme une course référence. Moi, la course référence de Grosjean cette année, ce serait le Nürburgring de cette saison, parce que déjà à l'époque, il était en bagarre avec les Red Bull, et que depuis, on sent un Grosjean qui monte en puissance. Et c'est, la course de Suzuka, c'est le résultat de cette montée en puissance. Donc il fait une très belle course, mais pour moi, c'est pas la course référence de Grosjean, c'est le Nürburgring, c'est le moment clé. Alors il y a eu Bahreïn qui a été une bonne course, mais la vraie course qui fait un déclin dans la saison de Grosjean, c'est le Nürburgring pour moi. Et voilà, ici au départ, bah il le dit lui-même, il a eu peur. Il s'est un peu souvenu de l'an dernier. Mais il flanche pas, les deux Red Bull se loupent, bah, paf, il prend sa chance. Et après, bah, c'est ce qui fait toute la course, il fait son boulot. Maintenant, on peut éventuellement critiquer la stratégie, mais comme on l'a déjà dit avant, fallait faire un choix. Est-ce que se caler sur l'autre Red Bull aurait été le bon? Ça,
mais alors,
on
ne saura
vous, jamais.
J'ai l'impression qu'ils choisissent chez Lotus de pas choisir, justement. Et au lieu de se calquer sur un pilote, que ce soit sur Vettel ou que ce soit sur Weber, bah ils ont suivi une stratégie un peu intermédiaire qui est de faire deux arrêts et demi grosso modo, quoi, enfin de s'arrêter un peu avant la fenêtre dans laquelle s'est arrêté Vettel et après celle de Weber.
Mais ils sont pas arrêtés en même temps à un moment donné?
Non, il y a quelques tours d'écart.
Ouais, non, Vettel, ça va beaucoup plus long, de juste. Oui.
Vettel va bien plus loin. Oui. Grosjean s'arrête au 29e et Vettel au 37e.
Ouais, c'est vrai.
Ils sont en deux arrêts tous les deux.
Ouais, bah c'est vrai que je suis même étonné que Vettel faisait un deuxième relais si long. Mais non,
et
mais
23 tours.
En soi, il fait un boulot le Grosjean.
Ce qu'il faut signaler par exemple, c'est sur le premier relais de Grosjean, il s'arrête donc deux tours avant le temps cible. C'est de tête celui dont les temps se dégradent le moins. Il a encore du potentiel dans ses pneus. Il s'arrête parce qu'ils veulent se calquer sur Weber. Effectivement, t'as deux stratégies. C'est soit tu te calques sur un pilote et tu restes jusqu'au bout, tu le marques à la culotte. Soit tu as une stratégie préétablie et tu la gardes jusqu'à la fin de la course et tu t'occupes pas des autres. On a l'impression qu'ils voulaient se calquer, mais qu'à un moment donné, en milieu de course, ils se sont dit merde, on se calque sur le mauvais. Il faut qu'on se calque sur l'autre. Il faut qu'on essaye de récupérer la baraque. Je pense que si soit ils étaient restés sur leur stratégie, soit ils étaient restés sur la stratégie qui était calquée sur Weber, ils étaient deuxième.
Est-ce que Weber
voulu viser la victoire ou croire à la victoire, même si aujourd'hui ils n'y croient plus. Mais même Grosjean l'a dit, j'ai cru à la victoire. Ils ont peut-être voulu viser la victoire, mais à un moment donné, faut juste savoir ne pas viser la victoire. Faut juste savoir viser la deuxième place, qui aurait été une splendide deuxième place. Moi, je trouve la troisième place est décevante parce qu'il y avait vraiment mieux à faire. Surtout que pour le coup, Grosjean a strictement rien à se reprocher. Il est solide devant Weber. Il y a pas d'erreur pilotage. Il fait pas de faute. Apparemment, il fait des fautes en ce moment que quand il y a Raikkonen derrière lui. mais voilà, c'est costaud, quoi.
Même son même sa défense sur Vettel, parce qu'il se défend, mais il se défend juste ce qu'il faut. On voit qu'il se décale sur la droite, mais il laisse la place à Vettel pour passer.
Il est en train de gagner ce qu'on admire toujours chez les autres pilotes dans les duels Raikkonen-Alonso, Weber, Vettel-Hamilton. C'est ce respect. Et aujourd'hui, c'est un pilote qui, on le respectait pas l'année dernière, maintenant on le respecte. Weber le respecte désormais, même s'il sera plus là pour longtemps. Et ça, mine de rien, ça facilite aussi la vie d'un pilote.
D'ailleurs, je sais pas vous, mais moi, cette course, j'ai eu beaucoup de mal à me concentrer sur autre chose que la bataille sur la victoire. Parce que la fibre patriotique aidant, un peu vibrée sur la performance de Grosjean. Oui, c'est vrai, mais
ils ont aspiré par le vide, aussi, hein. Ils ont créé un écart incroyable aussi avec les autres. Alors évidemment, il y a eu des stratégies différenciées qui ont un petit peu bouchonné, mais
il y a eu beaucoup de problèmes
quand même, même s'il n'y a pas grand chose.
Il y a eu pas mal de problèmes derrière, notamment Rosberg et Hamilton, quoi, qui font que peut-être qu'il y aurait eu un peu, il y aurait eu les deux Mercedes dans le trou avec Alonso, quoi.
Oui, pour qu'Alonso soit quatrième. Ouais. Ah, je suis méchant. Je vais attirer les foudres des fans d'Alonso.
Luca Di Montezemolo va te fouetter.
Ah ouais, oh, ouais Luca. Fais-moi mal, bébé.
Eh bien, au classement du SAV, ça nous donne un Vettel qui est toujours premier avec 264 points. Il creuse l'écart sur Alonso, deuxième, avec 225 points. Hamilton est troisième avec 176 points, devant Raikkonen 173 et Massa 124. Massa n'est plus mathématiquement titrable au classement du SAV, même si bon, on se dirige comme dans l'autre classement vers un titre de Vettel. 39 points d'écart à 4 courses de la fin, il faudrait quand même un miracle pour qu'Alonso soit champion du SAV. Au classement constructeur du SAV, Red Bull est en tête avec 381 points devant Ferrari 349, Mercedes 287, Lotus 286. Hein, donc il y a un petit suspense sur la troisième place. Bon, ils auront pas de diplôme hein, quand même, contrairement au premier. Ouais. Et McLaren 5e avec 63 points, donc il y a un gros gap. Hein. Dans l'autre classement, Vettel est en tête avec 297 points. Alonso deuxième avec 207 points. C'est presque joué, hein. Raikkonen 177, Hamilton 161 et Weber 148. Donc ça se jouera entre Vettel et Alonso. au niveau des constructeurs, Red Bull est premier avec 445 points. Ferrari deuxième 297. Mercedes 287. Lotus 264. Donc ça se resserre, hein, au niveau de la deuxième place. Lotus revient un peu, alors, est-ce que c'est grâce à Renault ou est-ce que c'est grâce à l'empattement long? On laisse ça à l'interprétation de chacun. Et McLaren est cinquième avec 83 points.
À noter, parce que je viens de vérifier, c'est la première fois que Grosjean gagne dans le SAV.
Donc, c'est la première victoire française.
Voilà. Oui, tout à fait.
Marseillaise!
Je sais que j'ai pas la Marseillaise dans mes jingles.
Faudra y penser.
Donc, oui, j'aurais dû. Donc, au Grand Prix d'Inde, Vettel sera champion dans l'autre classement. Hein. S'il est cinquième ou mieux, donc il lui suffit, il lui manque seulement 10 points pour être titré.
Et oui, donc, Red Bull, la seule fois où il a fait moins bien que cinquième, c'est en abandonnant. Et il était en tête.
Donc, bon.
Son pire résultat, c'est la quatrième place au début de saison. Donc,
voilà.
Et en abandon, c'est titré en Inde. C'est ça le.
Ben, il est titré.
Mais c'est vrai qu'il n'y a plus glamour quand même.
Ouais, mais je pense que Red Bull va être content.
Oui, surtout que Red Bull sera championne du monde également en Inde s'il marque 24 points ou mieux. Donc une victoire de Red Bull et c'est joué, quoi. L'hymne autrichien, messieurs.
Ah non, il dure des plombes. Non, ça va.
On va passer au drive-thru ?
Ouais.
Alors, est-ce que vous avez un drive-thru ?
Ouais.
Oui, j'en ai un cette fois.
Moi, j'en ai un. Il est trop rock'n'roll, il est trop contestataire. J'en ai un contre le circuit de Suzuka. Je trouve, oui. C'est le plus beau circuit du monde. Ben, tais-toi. Suzuka, c'est pour moi, c'est le plus beau circuit du monde. Maintenant, il y a un problème. C'est qu'il n'est pas télégénique et il n'est pas beau à regarder. Il est d'une tristesse folle. Heureusement, il y avait les incrustations du logo Rolex et Pirelli en post-production qui nous permettaient d'avoir un peu de couleur.
Ils ont à peine exagéré, il faut dire. Sur le Rolex dans Spoon.
Le Rolex dans Spoon. Il y a le Pirelli dans l'épingle, à la corde de l'épingle aussi, qui est faux. À la limite, il passe bien. Le Rolex dans Spoon, il est juste énorme. Mais je trouve... Alors après, c'est vrai qu'on a des habitudes aujourd'hui, maintenant, d'avoir à Abu Dhabi, on a On a Singapour qui sont des circuits qui sont beaux. On a l'Inde qui varie. Voilà, on a l'Inde, on a Bahreïn qui sont décorés sur les bas-côtés. C'est vrai que ça donne des, entre guillemets, des nouvelles références. Mais moi, je fais ne serait-ce que la comparaison avec Spa. Spa est un circuit qui est magnifique au-delà de son tracé. C'est un circuit que tu regardes, l'herbe est verte, il y a des couleurs, il y a de la forêt, c'est tout. Malheureusement, Suzuka, il n'y a pas ça. Donc voilà, quand je vois ces bacs à sable gris à côté du bitume gris, je me dis c'est triste. Pourquoi pas mettre des gravillons blancs, des beaux gravillons blancs, ça mettra un peu de couleur, un peu de fraîcheur.
Comme à Melbourne, des fois ils sont bleus.
Mmh. Oui, voilà. Tu mets un truc comme on va voir Austin à Austin. Tu mets le drapeau japonais à l'intérieur de Spoon ou à l'extérieur de Spoon. C'est juste beau, quoi. Je trouve que ce circuit du Japon, il est pas à l'image du Japon, qui est un pays coloré, qui est un pays dynamique. Et, voilà, quand tu vois un japonais, il a tout le temps le sourire, quoi. Et ce circuit, même si le tracé est magnifique, il est tristouné. Et voilà, j'aimerais que les organisateurs se pensent sur ça l'année prochaine.
Shinji sur le chat, lui, nous dit que tant qu'il n'y a pas d'incrustation sur la piste elle-même, ça va. Pour lui, ça va.
C'est vrai.
Non, mais en Italie, il n'y a pas la place.
En Italie, il avait fait.
C'est ça le truc.
Ça aurait été marrant s'il avait plu, ça d'ailleurs, je trouve.
Moi, j'ai un drive-thru pour Jack Villeneuve.
Newhouse.
Oui, John Newhouse, comme dans les jeux. Habituellement, je suis plutôt défenseur de ce que dit Villeneuve parce que je suis pour la diversité d'opinion. Hein. En même temps, qui est contre, on va dire. Sauf que pour se faire une bonne opinion, faut quand même avoir des bons faits à la base. Le problème, c'est que Villeneuve, des fois, il nous sort de grosses conneries. Par exemple, que Weber n'a pas gagné en 2012, etc., etc. Voilà. Donc, c'est pour dire à Jacques Villeneuve qu'il fasse quand même, soit il fait lui-même ses fiches, comme, par exemple, certains le font quand ils présentent une émission. soit il se les fait faire par un assistant, etc., quoi. Mais qu'il, dans la position où il est, il faut quand même que, même s'il n'est pas journaliste, qu'il ait les faits sur lesquels il se base, pour bien se faire des opinions solides, quoi.
Ouais, puis c'est aussi à Canal Plus d'exiger ça, enfin.
Oui, voilà. Il faut aussi qu'il y ait quelqu'un, parce que Febro ne le corrige pas ne le corrige que pendant la course, alors qu'il le sort plusieurs fois pendant tout le week-end.
Ouais.
D'ailleurs, au passage, Canal Plus, sincèrement, il faut qu'ils résolvent leur problème de son. Les essais libres.
Je vais te dire.
C'était juste insupportable. Enfin, moi, c'est la première fois que ça me gonfle au point où j'ai à un moment donné failli éteindre la télé tellement j'en avais marre de ne pas entendre.
Par rapport au son du commentateur?
J'ai des petits problèmes d'audition. J'ai une oreille. J'ai deux oreilles qui entendent beaucoup moins bien. Et vraiment, sincèrement, là, ça devient insupportable. On n'entend plus les commentateurs. À la limite, le son de Montagny, ça me gêne pas. Mais les commentateurs, j'ai même essayé de les régler. De ma télé, voir cinéma et compagnie stéréo, j'ai essayé tous les réglages possibles, c'est toujours le même problème.
Mais je vais te dire, parce que moi j'ai tweeté Cyril Linette à ce sujet un moment pendant la saison, et lui me dit que tout va bien, et il y avait des tweetos pour appuyer, pour dire que c'était moi qui avais tort, que le plus important c'est le bruit des moteurs, etc. etc. Donc chez Canal+, il n'y a pas de problème de ce côté-là, quoi.
À un moment donné, c'est juste
c'est même un
quoi,
choix technique pour eux de privilégier le son des moteurs par rapport aux commentateurs.
Dans ce cas-là, qui regarde
pourquoi ils payent. Mais voilà, c'est ça. À ce moment-là, on se demande pourquoi ils payent deux commentateurs, des équipes dans les stands, etc., pour intervenir. Mais bon, voilà. C'est la réponse que m'a fait de Canal+ à l'époque.
J'avoue que c'est un truc que j'ai. Enfin, franchement, je l'ai remarqué que parce qu'on me l'a fait remarquer. Moi,
c'est comme ça au départ, mais
j'avais pas du tout ce sentiment, hein. Et je l'ai toujours pas en fait. Donc c'est.
Non, mais sincèrement, là au Japon, sincèrement, c'était insupportable. C'était pire que la plupart du temps.
Mais je sais que c'est une critique qui revient souvent, donc c'est sûr que ça doit être vrai, hein. Mais moi, j'avoue que ça m'a.
Et bien pourtant, dans les hautes sphères du service des sports, apparemment, c'est pas un problème. Moi, bref. À noter, comme le dit Jackie Ratzenberger, pardon, sur le chat, que la semaine pendant le Grand Prix d'Inde, Jacques Villeneuve ne sera pas là, c'est Franck Montagny qui sera dans la cabine à côté de Julien Febvre.
Est-ce qu'il y a une raison tangible pour la... J'adore ce moment, pour qu'il ne soit pas là.
Ah ouais, t'as pris. Alors, non, je sais pas, j'ai juste entendu ça, comme Jackie, et
J'ai pas pensé à vérifier si Jacques Villeneuve a une compétition. Ou je sais pas, quelque chose.
Ah, peut-être qu'il sera pas des dégâts. Je sais pas. Fab, drive-thru
Oui, un petit drive-thru pour nos amis, les aficionados de la théorie du complot. Toujours prompt à s'exercer, à fourbir leurs âmes sur les réseaux sociaux dès que Vettel termine devant Weber. Surtout que je pense que c'est un des week-ends de fait où on a plus vu une comparaison possible entre les deux, et c'est à peu près le week-end aussi où il y a eu des problèmes de Kers du côté de Vettel. Le départ, ils font exactement le même. Il n'y en a pas un qui part mieux que l'autre. Et en course, ils sont sur deux stratégies différentes. Bref, je vois mal comment on peut soutenir la théorie du complot du côté de Red Bull sur cette
course. Non, mais c'est l'exception qui vise à confirmer
la règle. Red Bull l'a fait. Oui, mais c'est ça le pire en plus. Les gens, ils vont dire ça. Mais
de toute façon, quand t'es convaincu qu'il y a un complot, tu trouves n'importe quel argument. N'importe quel argument est recevable.
Ouais, non, mais en plus, moi, ce qui m'énerve toujours, mais c'est à la limite, c'est même plus global que ça. C'est toujours les mêmes trucs qui reviennent. Ah, tiens, comme par hasard, c'est sur la voiture de Weber. Mais quel est l'intérêt de Red Bull de plomber une voiture? Très franchement. Les gens, posez-vous cette question. Quel est l'intérêt de Red Bull de plomber la voiture de Weber? Weber, il est largué par Vettel, car la plupart du temps. Quel intérêt ont-ils de plomber sa voiture? Ça leur coûte
très
cher.
Assurer le titre à Vettel.
Mais oui, mais non, mais voilà. Mais c'est ridicule, quoi. Mais les gens, faut vraiment qu'ils se relisent, quoi. C'est pas possible d'avoir des réactions aussi idiotes, quoi. Non, mais sans déconner. Je veux dire, l'année dernière, enfin, je sais pas, mais il y a un truc genre, c'était en début d'année, je sais plus quel Grand Prix, Chine, quand Weber est...
Il perd une roue,
mais aussi quand il est pénalisé en qualif parce qu'il a pas assez d'essence. Mais c'est arrivé l'année dernière à Vettel, à deux courses de la fin de la saison, quand il jouait.
Justement là-dessus. Voilà. J'ai lu sur un, alors c'était repris par F1 Fanatic là encore, il reprenait un article d'un blog qui avait fait justement comptabiliser tous les problèmes de Weber et de Vettel sur les 4 ans, sans compter 2009 quoi, sur les 4 ans où Vettel va être champion, parce que bon, il va être champion cette année. Apparemment, Weber.
Mais pas la charrue avant les bœufs.
Non, je ne mettrai pas la charrue avant les bœufs, peut-être. Apparemment, Weber a subi 46 problèmes, donc des problèmes mécaniques, des consignes de course ou des problèmes. Des problèmes aux arrêts au stand. Et Weber et Vettel est à 43. Donc c'est pas, j'ai pas le détail exactement sous les yeux, mais c'était pas si, à sens unique que ce qu'on veut croire, quoi. Après, la différence, c'était surtout que les problèmes de Weber étaient davantage terminaux que les problèmes de Vettel, quoi.
Je me dois de citer la réflexion de Shiji sur le forum qui dit « Lister les problèmes de Weber, c'est un peu comme faire le Vidal de la Formule 1. »
C'est ça.
Ah, Shiji.
Ben, toujours pas de drive through?
J'en ai eu un pendant la conversation que j'ai perdu, mais... non, si je devais mettre un drive through, ce serait un peu en rapport avec le circuit Suzuka quand même, mais ce serait sur les circuits modernes et leur dégagement en asphalte.
Ah, c'est vrai.
Parce qu'ici, on a... Bon, il y a des dégagements qui sont asphaltés, mais... Il y a encore des dégagements en vrai gravier.
C'est course de Degner quand même.
Mais oui, mais ça.
On parle souvent du 130R, du Rédillon qui sont plus maintenant, ou de Blanchimon qui maintenant sont plus vraiment des virages. Alors que ces courbes Degner là, c'est quand même des virages magnifiques et des
morceaux. Dans le guide du SAV, j'avais mis les courbes Degner comme mes virages préférés.
Oui, et je pense que ça devient moi aussi, parce que chaque année, on a des pilotes qui se font piéger à cet endroit-là, quoi. On passe au fait marquant. Vous avez été 105 à voter. Et on vous remercie. De même, on vous remercie encore pour les 130 qui ont voté pour le top 10. Est arrivé troisième, le dernier Grand Prix de Corée, point d'interrogation, avec 12 votes, donc 11,43% des voix.
Ah,
donc c'était ta proposition, Dino.
Oui, d'ailleurs, j'ai remporté le sondage d'avant, hein, je dis ça comme ça.
Oui, non, mais t'es considéré comme un auditeur cette saison.
Oui, mais quand même, je tiens à le signaler.
C'est une victoire à mettre au crédit des auditeurs. Il n'y aura pas de...
Non. Je veux garder le trophée.
Est arrivé deuxième, la Corée, le pays du Grand Prix en 4x4, avec 38 votes, 36,19% des voix, Ismaner, effectivement. Est arrivé premier, hein, comme souvent, il faut bien le dire, la proposition de Shinji. Hülkenberg, mais qu'attendent les autres équipes pour l'embaucher? 55 votes, 52,38% des voix.
Et ben moi je vais dire, c'est moi qui choisis en premier, je crois.
Oui.
Et je vais dire Grosjean, mais qu'attendent les autres équipes pour le débaucher?
Moi ce sera.
Et ça va causer ta perte, ça.
Moi je vais mettre les deux Red Bull se loupent au départ.
J'aime bien parce que Ben il se prend la deuxième place alors que bon. Mais enfin bon, c'est bien, l'opportunisme ça paye.
Ben oui, regarde Grosjean. Je disais les deux Red Bull se loupent au départ.
Mm-hmm.
Mais c'est comme ça, je suis sûr qu'on ne pique pas l'idée aussi.
Fab, c'est 3e.
Non, vas-y. Moi, j'aime bien les défis.
Mais non, parce que moi, je remplace Shinji, donc je suis dernier, obligatoirement. J'ai la place de l'animateur. Je sais pas si vous avez remarqué, j'anime cette émission.
Il y a aucune règle. On est bien d'accord. Le SLM, c'est la foire d'emploi. Il y a aucune règle. Et Gus Gus, il invente une règle à son désavantage. Moi, je dis bravo.
Mais non, je suis l'animateur. La position de l'animateur, Shiji était l'animateur, il a gagné, donc j'ai perdu. Enfin, c'est pas dit que j'ai perdu encore.
Tu interprètes le règlement qui n'existe pas, mais bon. Moi, c'est
les règlements, ça me connaît. Vas-y, Fab.
Je crois que ça l'emmerde plus que ça l'arrange, Fab.
Ouais, non, mais c'est ça. Parce qu'en fait, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a eu d'important dans cette course? Parce que moi, je veux vraiment jouer la victoire. Je veux pas me contenter des accessites.
Mais moi, je jouais vraiment la victoire. Après, c'est juste les auditeurs qui n'ont pas le sens, qui ne sont pas raisonnés, c'est tout.
Pendant ce temps-là, Mike Patton...
Sans contrefaçon, Vettel sera champion. Je sais pas. J'ai aucune idée.
Tout ça pour premiers points de boutière. Ouais, moi, je veux un truc pour gagner et compagnie, et il fait ça.
Tout ça pour faire du Mylène Farmer, quoi.
Ouais, non, mais c'est ça, en plus.
Moi, je vais faire un truc sur Weber.
Son dernier Grand Prix du Japon.
Non, je voudrais mettre un peu de ça, mais quand même, il est pas passé... Weber, presque sa dernière victoire. Allez, Weber, presque sa dernière victoire.
Oula. Bon bah Ben, ça va être entre toi et moi.
Non mais moi j'ai aucune prétention dans ce concours. De toute façon, j'ai jamais
envie de dire là, c'est un peu entre moi et moi.
Ouais, détrompe-toi. J'en appelle aux auditeurs. Votez en votre âme et conscience.
Donnez-lui tort pour une fois.
Ah c'est bien, vous reconnaissez que voilà, pour une fois je pourrais peut-être avoir tort. C'est tellement rare.
Non. D'habitude tu as raison parce que personne te donne tort.
Voilà, on en appelle au
peu de résistance
à la démocratie nous. Hein.
Voilà. Donc, vous aurez le choix entre Grosjean mais qu'attendent les autres équipes pour l'embaucher. Les deux Red Bull se loupent au départ. Sans contrefaçon, Vettel sera champion. Et Weber, presque sa dernière victoire. Pour voter, c'est très simple. Vous allez sur fan-f1.com et vous cherchez l'article du SAV du Grand Prix du Japon. On va passer au concours ?
Ouais.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Position. Franchement, si vous avez compris les règles, vous êtes déjà un champion.
Alors, nous avions droit à une question d'Adelin, qui consistait à citer le maximum de Grands Prix où l'on peut voir les F1 depuis un bateau. Il me semble qu'on avait insisté pour que les participants donnent les raisons pour lesquelles ils mettent certains Grands Prix, et on les avait incités à être originaux. Donc, je vous donne les réponses, et puis vous allez choisir. Donc, première réponse... Les circuits depuis lesquels on peut regarder la course à bord d'un bateau sont Melbourne, avec n'importe quel bateau, on a une vue sur une bonne moitié du tracé. À Sepang, il y a un petit lac proche de la piste sur lequel je peux installer un bateau avec un mât suffisamment grand. J'aurai sans doute besoin de jumelles pour apercevoir la course. À Bahreïn, depuis la côte, avec un télescope, on peut réussir à voir la course.
Les mecs.
Monaco, bien sûr, dans le port. Canada, avec un grand mât, on peut voir passer les voitures par-dessus les murs qui bordent le circuit, hein, puisque je complète un peu parce que c'est au bord du Saint-Laurent. De même à Singapour. Également, Yeongam, dans la marina invisible, où il y a toujours de la place pour garer son bateau. Effectivement, imparable.
C'est d'ailleurs plus un endroit où les bus passent. Tous les ans, on voit les bus passer.
Oui.
C'est le couloir de bus, en fait.
Et les 4x4. À Suzuka, à l'intérieur du virage 1, se trouve un petit lac idéal pour regarder
enfin,
le...
Ouais, enfin, oui. Effectivement, mais bon...
Si t'arrives à élitroyer un gros bateau...
Oui.
Ouais. Avec un grand mât, c'est surtout ça le critère.
Ouais, mais enfin, un canoë-kayak avec un grand mât, j'ai un doute, personnellement.
C'est vrai que... Sur le bout de circuit, il n'y a aucun point d'eau. Par contre, des routes peu fréquentées bordent la piste. C'est donc l'endroit idéal pour placer mon bateau attaché à la remorque de mon camion. Je peux ainsi regarder le Grand Prix d'Inde depuis mon bateau. Abu Dhabi dans la marina. À Austin, il y a un petit lac tout près du circuit. Je peux installer un bateau avec un mât suffisamment grand. J'aurai sans doute besoin de jumelles pour apercevoir les F1. À Interlagos, si je place mon bateau avec le grand mât sur le fleuve près du circuit, je peux sans problème assister au Grand Prix. Faut dire qu'Interlagos, ça veut dire entre les lacs, et même, je crois que sur le circuit, il y a même un petit réservoir naturel. Enfin, naturel, je sais pas, mais...
Il y a un lac au bout de...
Disons qu'il y a deux gros lacs de part et d'autre. Il y a deux gros lacs de part et d'autre du circuit à grande échelle, et à l'échelle du circuit, il y a un petit lac, effectivement, juste à côté.
Sans doute disparaître, d'ailleurs.
Oui, parce qu'il est un peu sur la trajectoire du prochain tracé. Et donc la question qui va avec cette réponse, parce qu'on en est qu'à la première réponse, hein, messieurs, ça va.
Mais c'était quoi que Adelin avait listé, lui? Pour avoir une base de départ et
il,
voir.
Il
comment...
avait de mémoire, il avait donné les quatre classiques.
Le truc, c'est qu'il y avait eu que deux questions, deux participations.
Voilà. Je sais,
c'est pour ça qu'on avait invité à être originaux, parce que.
Et donc, la question qui va avec cette réponse, quel pilote a mené le plus de tours sur le circuit d'Abu Dhabi depuis sa création en 2009? Donc, vous prenez compte, enfin, c'est pas moi qui choisis, mais vous prenez compte à la fois de la réponse et de la question pour choisir.
Je trouve quand même que ce participant a un problème avec les grands mâts. Il y fait souvent référence. voilà. C'est peut-être un problème dans l'enfance, l'absence du père ou quelque chose comme ça, mais il y a un truc avec les grands-mères.
Ou de la grand-mère, peut-être.
Nous te laissons responsable de tes propos. Ensuite, deuxième réponse. Plus généraliste, vous allez voir. Donc, on nous dit pour la première fois, pour le premier circuit, le circuit d'Aintree depuis le canal au nord, l'Albert Park depuis le lac, le circuit d'Avus depuis un autre lac, Schlachtensee. Je sais pas si je prononce bien, mon allemand est assez terrible.
Oui, je pense.
Oui. Merci de ton support. Le circuit de Brandzach, une bonne averse, un Zodiac, ça pourrait le faire en Angleterre. Le circuit de Bremgarten, qui est en Suisse, hein, me semble-t-il.
Je suis obligé quand même de je te coupe, excuse-moi, mais pour t'aider à prononcer, Shinji a écrit le nom sur le chat de Schlachtensee. Sauf que ça ne nous donne pas du tout la prononciation.
Schlachtensee, oui, c'est vrai que Shinji m'aide beaucoup.
Shinji d'ailleurs qui nous précise les réponses qui avaient été proposées par Adelin, c'était Australie, Monaco, Canada, Singapour, Abu Dhabi et Corée du Sud, mais de loin.
Oui, c'est vrai que la Corée du Sud. J'en étais où? Oui, Bremgarten depuis un cours d'eau. Bon.
Il va faire tous les circuits comme ça?
Il y en a une vingtaine, hein, j'ai l'impression.
Oh là là.
Ouais, mais nous, on a clairement dit, c'est des circuits où on pouvait voir les Formule 1.
C'est vrai qu'on peut plus les voir. C'est vous qui êtes vu. Après, moi, je transmets.
Je sais pas vous, mais moi, je trouve que ouais, c'est un poids leur sujet.
Il a le.
C'est quelqu'un qui veut trop bien faire, mais.
Il a les cinq. C'est bon.
Parmi les réponses modernes, il y a Spa-Francorchamps. Un tout petit bateau tient dans un pot de chambre, non? Suzuka, grosse flaque du côté de Spoon. Je crois qu'il s'est trompé avec le premier virage.
Ouais.
Paul Ricard, il y a un beau bassin de rétention au sud du circuit d'après cet auditeur. Au Red Bull Ring.
Ça s'appelle la Méditerranée.
Peut-être. Au Red Bull Ring, il y a plein d'eau au sud du circuit. J'ai pas vérifié personnellement. Au Nürburgring, je suis sûr qu'on doit trouver une flaque ou deux le long du grand tracé.
Bah dans la ligne droite, il y en a pas un juste à côté, dans la grande ligne droite là sur le retour. Il doit y avoir un lac non à côté.
Je ne sais pas. Enfin, vous me dites hein, si vous voulez que je continue ou si vous voulez éliminer
Dino, gagne
10 minutes, hein, je veux dire.
Toi, qu'on a parcouru le Nürburgring en 4L, on n'a pas regardé de ce côté-là.
Non, moi j'ai regardé la piste. Nürburgring, tu regardes la piste.
C'est vrai. D'ailleurs, tu défendais très bien.
Donc, il faut quand même préciser, c'est qu'un jour sur Grand Tourisme, on a fait une course en 4L. Ouais, ça doit être ça, et voilà.
Votre envie est trépidante, messieurs.
Il y avait du L. On pourrait qu'on se refasse ça de temps en temps.
Est-ce que je continue cette réponse ou est-ce que vous l'éliminez d'emblée? C'est pas une demande.
Moi,
mais
sincèrement, même s'il y a les réponses dedans, c'est hors sujet. Enfin, c'est veut trop bien faire parce qu'il nous cite plein de circuits, mais c'est des circuits où aujourd'hui on peut pas voir des Formule 1. C'est vraiment.
Je vous donne la question quand même.
C'est vraiment.
La question.
Quel est le top 10 de la position moyenne de départ pour les pilotes en activité? Donc de départ sur la grille. Et donc, troisième réponse.
Il n'y en a que trois?
Oui, il n'y a que trois. Il y en a, c'est déjà beaucoup vu la longueur des réponses. Hein.
Si celle-ci est bonne, bon, on verra.
Donc là, c'est réponse comme la première avec les circuits modernes. Donc, Grand Prix d'Australie, pas de souci, une petite barque sur le lac de l'Albert Park et vous l'apprenez pour le premier Grand Prix de la saison. Grand Prix de Malaisie, avec les trombes d'eau qui tombent quasiment tous les ans et la capacité d'évacuation de la piste, il y a moyen de se faire une balade à bateau sur le circuit. Grand Prix de Chine, dans le virage 7, il y a un petit plan d'eau qui vous permettra de profiter du Grand Prix allongé dans votre embarcation. Grand Prix de Bahreïn. Bon, d'accord, le circuit à 4 km de la mer, ça fait un peu trop loin, mais le style bateau pirate échoué depuis des cinquantaines d'années dans le sable du désert, ça peut être sympa.
Ah, ça se tient.
Il dit que c'est un peu abusé, mais c'est vrai, ça se tient.
Non, ça se tient.
Ouais, non, je crois que c'est tellement abusé. Hein.
Grand Prix de Monaco, la question ne se pose même pas. Viens profiter du plus resplendissant Grand Prix de l'année avec Raikkonen dans son yacht, une fois qu'il aura ruiné sa monoplace. Grand Prix du Canada, va donc chercher ta blonde, on va regarder la course de char sur le Saint-Laurent.
Lui, je, sincèrement, il est en train de gagner juste par
il
la réponse.
Prime, hein. J'ai l'impression qu'il y a une prime à l'humour. Grand Prix de Hongrie, nos problèmes, le circuit est juste à côté de l'Aquarena, du haut du grand toboggan, tu auras une vue superbe sur le virage 7. Alors, je sais pas vous, mais mettre un bateau quand même sur un toboggan, c'est pas, c'est discutable.
Si c'est un bateau gonflable, en forme oui. de bouée. Moi, pour Pourquoi moi, ça pas. Se tient. Il oui. le précise pas, mais pour moi,
il
c'est
un canot gonflable. Grand Prix de Belgique, pas de France, pas Francorchamps sans le raidillon de l'eau rouge, et l'eau rouge est une rivière traversant la Belgique. Profite donc de ton kayak pour voir Sébastien se débarrasser de Lewis sur le plus gros tracé de la saison. C'est partisan, hein, on va dire. Grand Prix d'Italie, inscris-toi au centre sportif Parco à Monza et profite de leur piscine pour observer les pilotes dans le virage 2 depuis ton bateau pneumatique. Encore bien capillotracté, hein, si on en croit l'auditeur. Grand Prix de Singapour, fais ton touriste et prends le bateau mouche de Singapour sur la Kallang River pour observer les pilotes de nuit. Grand Prix de Corée, le pays étant explosé en 1000 morceaux, le circuit se retrouve à côté de la mer, entre guillemets. On peut le voir depuis une embarcation. Grand Prix du Japon, pédalo obligatoire pour regarder le Grand Prix depuis un des deux lacs au centre du circuit. Grand Prix oui. d'Inde, pour Bouddh, une seule solution, prends ta tata, la voiture, hein, il précise. Accroche ta carriole, pose-y ton bateau et fonce sur l'autoroute qui longe le circuit. Donc un peu la même réponse que précédemment. Grand Prix d'Abu Dhabi, circuit en pleine marina, donc normalement pas de soucis pour venir comparer qui a la plus longue embarcation, bien sûr. Grand Prix des États-Unis, un mini lac à côté du circuit. Si t'y arrives, tu peux toujours louer le bateau Oracle Team USA et essayer de grimper en haut du mât. Why not?
C'est vrai que s'il a réussi à gagner 8 courses d'affilée, regarder le Grand Prix sur du sable, c'est pas gênant. Quand on a vu Oracle et Team New Zealand dans la Coupe de l'Amérique, est-ce que c'est vraiment des bateaux, hein? On a plus l'impression que c'est des avions.
Donc moi, ils tiennent sur l'eau, eux. Donc c'est des bateaux.
Oui, mais il faut pas beaucoup d'eau. C'est ça l'avantage. Tu mets deux verres d'eau, je pense que les deux tiennent. Tu mets deux verres d'eau au bout de la ligne droite, c'est bon.
Grand Prix du Brésil, c'est pas fini, hein, il en manque encore 3 ou 4. Avec toute l'eau qui a empêché Glock d'avancer et toutes les larmes que Felipe a versées à la fin de cette fameuse année 2008, il doit bien en rester un peu pour déposer ton voilier. Grand Prix d'Espagne, ici pas de bateau, mais on peut toujours venir aider Pastor à ramer pour arracher une deuxième victoire en Grand Prix sur les lieux du miracle. Grand Prix de Grande-Bretagne.
Ça commence à ramer.
Oui, c'est moi qui rame aussi, hein.
Non. C'est même les réponses, elles rament.
Oui, il faut bien, hein. Parce que j'ai l'impression qu'il y a sur les 20 Grand Prix, 19 cette année, il y en a quand même 15 ou 16, quoi.
Oui.
Grand Prix de Grande-Bretagne, difficile aussi de regarder la course depuis un bateau ici, mais cette année on a pu voir pour une fois Vettel à l'eau et pas de champagne du podium, Et enfin Grand Prix d'Allemagne, pas de point d'eau en Allemagne, que de la bière. La question qui va avec, enfin, Jim Clark, Alonso, Stewart, Raikkonen, Damon Hill, Ayrton Senna, Piquet, Michael Schumacher, Scheckter et Farina ont un point commun et seulement E10, lequel?
Mais lequel de Piquet?
Ah, bah, pas Nel Silvio, ça c'est sûr.
Tu peux rappeler sinon, sur la petite... question? Mais seulement le 10, c'est ça?
Seulement E10 ont ce point commun.
Seulement
et vu la réponse, je pense qu'on peut faire confiance sur. Je pense que voilà. Seulement, donc je répète, Jim Clark, Alonso, Jackie Stewart, Kimi Raikkonen, Damon Hill, Ayrton Senna, Nelson Piquet Senior, Michael Schumacher, Jody Scheckter et Giuseppe Farina ont un point commun. Et seulement E10, lequel?
Elle me plaît bien, celle-là.
Ouais, de toute façon, vu les autres.
La réponse était sympa et puis elle est un peu compliquée, quoi. Donc il va falloir chercher un peu.
C'est la plus
là, j'ai pas de réponse bien immédiatement, donc...
Vous validez?
Ça serait marrant de chercher. Oui.
C'est validé. Eh bien, c'est Nitram qui, je pense, pour sa première participation, parce que je me souviens pas de ce pseudo dans les émissions précédentes, qui donc gagne un cadeau. Et lequel est-il, Dino?
De mémoire, c'était le bonnet Red Bull Sébastien Vettel, ce magnifique bonnet avec le taureau rouge.
C'est lissé.
Winter is coming.
Voilà. Donc voilà. Bravo
Nitram, tu gagnes donc ce bonnet. En basse résolution, hein, puisqu'il y a un peu pixelisé.
Alors, faut rappeler, parce qu'on m'a posé la question dans un mail sur la boîte messagerie du SAV. Sur les cadeaux, on est dépendant des délais de livraison des équipes, et qui ne sont pas toujours très réactives, pas toujours très...
C'est la faute à Steph Corr.
Voilà. Donc, les cadeaux sont commandés. Normalement, vous devez les recevoir. Maintenant, sur les délais, on peut pas vous garantir les délais. Soyez juste patient, quoi. Si vraiment il y a des gros retards, n'hésitez pas à venir nous le dire. Mais
donc Nitram, on te recontactera, alors soit moi, soit Shinji, ou même Steve Corr directement. Enfin, on se débrouillera. Quant aux deux autres questions, donc la réponse un peu sur plus générale sur les circuits, c'était une question de Fabrice, qui moi aussi je crois, qui je pense c'était aussi sa première participation. Oui. Donc bienvenue à eux. Tu gagnes un petit ticket pour le tirage au sort de fin d'année pour gagner le casque échelle 1,5 d'Alain Prost.
Non, échelle 1.
Échelle 1, oh là, c'est même encore mieux. Une valeur de 500 euros, de plus de 500 euros en plus.
Oui, avec l'emplacement pour le nez, c'est quand même important.
Et avec le petit Sonic sur le dessus. Parce que c'est aussi important pour moi que pour Dino. Et donc la première réponse que évoquée, c'était celle d'Alan. Donc toi aussi, tu gagnes un petit ticket pour le tirage au sort de fin d'année. Les réponses aux questions, est-ce qu'on a le temps de les...
Ouais, de toute façon,
les aborder.
Les questions sont...
Oui, c'est vrai, cherchez un petit peu. Voilà. Donc, je vous répète la question. Jim Clark, Fernando Alonso, Jackie Stewart, Kimi Raikkonen, Damon Hill, Ayrton Senna, Nelson Piquet, Michael Schumacher, Jody Scheckter et Giuseppe Farina ont un point commun et seulement E10, lequel? Pour nous répondre, vous nous envoyez votre réponse, votre question et la réponse à la question que vous nous envoyez à concours@savf1.fr. Votre réponse sera attestée dans les mains de Dino et des chroniqueurs présents, si jamais c'est le cas. Quoi qu'il en soit, si vous avez une question sur la F1 et que vous souhaitiez que nous y répondions, ou quelque chose dans le genre, vous nous l'envoyez à répondeur@savf1.fr. On se fera un plaisir d'y répondre dans le ou les prochains mags, ça dépend du calendrier. Il me semble qu'il y avait une question qu'on n'avait pas reçue par mail, mais qui avait été posée un peu au débotté sur les rétroviseurs de la Lotus. Donc je pense qu'on y reviendra parce que j'ai des éléments de réponse. Et de toute façon, si vous voulez nous contacter pour toute autre chose, si jamais vous souhaitez participer ardemment aux prochaines émissions d'Après Grand Prix, vous nous envoyez un mail à contact@savf1.fr.
Alors à ce propos, sur le planning, donc la semaine prochaine il y aura un mag, dans deux semaines on fera un SAV du Grand Prix d'Inde live, voilà, et sinon sur la fin de saison, comme on vous l'a déjà dit, on aimerait essayer de généraliser le live pour les SAV même d'après le Grand Prix. Maintenant il y a déjà des candidats qui ont postulé, donc on va déjà voir ça avec eux. Donc en l'état, il restera 3 Grands Prix après l'Inde, avec déjà suffisamment de candidats à combler, donc peut-être pour une prochaine fois, je pense.
Voilà.
Et j'en profite, parce qu'on a oublié de dire, mais il y a un cadeau quand même à la clé pour la prochaine question du concours.
Ah oui.
Et pas n'importe quel cadeau. Il y a le Sarah Force India Messenger Bag, dont le prix a augmenté, tiens, c'est bizarre. Une valeur de 67,50€, voilà. Un beau sac, une belle besace Force India, voilà, de couleur noire avec les couleurs de Force India, donc l'orange et voilà, vous prenez un pantalon Force India, vous transformez en sac, vous avez le sac Force India.
Et vu qu'ils ramènent pas de points, ils ont pas besoin de cette besace en fait.
Non, voilà.
C'est très utile.
Non, voilà, c'est quand même l'un de nos cadeaux les plus chers de l'année, donc voilà, si vraiment vous êtes intéressé par la valeur des cadeaux, c'est je crois c'est le vrai. Troisième cadeau le plus cher, donc
jouez quand même, hein, sinon ne serait-ce que pour avoir un petit papier pour le tirage au sort final.
Mais voilà, hein, pour les fous plus
gros, c'est toujours ça de prix. On vous rappelle que le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur podradio.fr sur le canal Alpha, c'est sur Podcast France, c'est sur Facebook, c'est sur Twitter avec le hashtag SAVF1, c'est sur savf1.fr, bien sûr, et quand c'est en live, c'est sur la page savf1.fr/live.
Il y a un
sur
lien SAVF1, dans le menu.
Voilà, il y a un lien aussi, donc voilà, vous serez pas perdus. Sur savf1.fr, on trouve aussi en bas de page la liste de nos comptes Twitter si vous voulez nous suivre individuellement. Ça mange pas de pain. Messieurs, le SAV de la F1, c'est...
Le Ritz des podcasts.
La famille.
En couleur.
C'est en live. Voilà.
On a bien
une nouvelle proposition. Ça se termine, oui, c'est vrai. En outre, la F1 sur Internet, c'est sûr.
F1.com.
Voilà. Où on continue, on en profite pour, comme on le fait de temps en temps, pour saluer le travail de toute la rédaction. On ne va pas tous les nommer pour éviter d'en oublier, mais... Et un grand merci aux petits nouveaux qui ont rejoint récemment la rédaction. Messieurs, un petit pronostic pour la semaine prochaine, le Grand Prix d'Inde, pour la deuxième place, hein, parce que sinon c'est trop facile.
Weber.
Oui, ça se tente.
Hamilton.
On sent le fan qui veut y croire.
Bah, écoute, C'est frustrant cette course japonaise, donc.
Non, puis il y a du suspense en plus. Hein. Enfin, faut le dire. Pour le titre, c'est mort, mais pour la deuxième place, il y a vraiment du suspense, je trouve. Donc,
oui.
La fin de saison sera pas inintéressante, avec des gros duels pour les constructeurs et aux pilotes. Il y a aussi des choses intéressantes à voir, notamment avec les gros Jean Massa.
De toute façon, si on est fan de F1, c'est toujours intéressant.
Ouais.
Ben, pas de pronostic.
Quoi, pour la deuxième place?
Oui, sinon c'est pas du jeu.
Ouais, Raikkonen, je fais dans Raikkonen. Le fanatisme aussi.
Mais moi c'est pas du fanatisme, c'est totalement raisonné.
Est-ce que tu as des preuves tangibles?
Vaste débat. Moi je resterais sur un Grosjean, moi, personnellement. Je le sens bien parti, là, ce serait dommage que cette dynamique se casse un peu.
Ah, si Grosjean fait 3 podiums de suite...
Ouh, on va le voir arriver gros comme une maison en 2014.
Ouais, malheureusement.
Et donc, vous le savez, lors des SAV d'après Grand Prix, le mot de la fin, ce n'est pas une rubrique un peu ridicule comme on en fait en fin de mag, mais c'est Dino qui s'en charge avec son traditionnel proverbe. Alors oui. Dino, on t'écoute.
Bah, naturellement, je vais terminer sur un proverbe japonais et qui résume, je pense, bien la stratégie Red Bull, en tout cas le dilemme auquel a été confronté. Vous voyez, cette semaine, je vous explique, parce que ça va être assez compliqué.
Ah oui, parce que d'habitude...
Oui, le dilemme auquel a été confronté Romain Grosjean et Lotus, et ce proverbe est le suivant: on ne peut admirer en même temps la lune, la neige et les fleurs.